Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
Bienvenue dans Soft Power, magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture en direct jusqu'à 20h30. Ce soir, je reçois le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Bonsoir, Geoffroy Lejeune.
Bonsoir, Frédéric Martel.
Hebdomadaire de droite, magazine d'opinion, journal de droite radicale, de droite extrême, journal conservateur, réactionnaire, tendance hors les murs, décalé, iconoclaste. Au-delà de tous ces labels qu'on a pu vous attribuer, comment est-ce que vous définiriez votre journal ?
Alors vous me prenez un peu de court avec cette question, il y a eu beaucoup de qualificatifs.
On a déjà dû vous la poser quand même.
Je vais vous répondre très simplement. D'abord je dirais que c'est un journal en fait. C'est-à-dire que notre métier c'est de faire du journalisme et donc de raconter des faits. Et donc vous avez raison sur l'opinion, évidemment après on pourra en parler, il y a évidemment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais la première chose qu'on essaye de faire
c'est du journalisme.
Voilà, exactement.
Ce qui veut dire,
de l'enquête, du reportage, parfois du décryptage aussi de ce qui se passe. Séparer l'effet des opinions ou alors n'exprimer une opinion que par un angle, mais ça reste du journalisme d'avoir un angle. Je dis ça parce que souvent les gens qui nous connaissent pas pensent qu'on est un journal d'opinion avec des éditorialistes qui donnent leur avis à longueur de page. Un avis en plus tranché, radical, c'est pas le cas. Quand on ouvre ce journal, qu'on le lit, je sais que vous l'avez fait, on apprend des choses aussi.
Depuis quand vous êtes à Valeurs Actuelles et depuis quand vous en dirigez la rédaction ?
Alors moi je suis arrivé en 2011 en stage de fin d'études après mon école de journalisme et je dirige la rédaction depuis le mois de juin 2016.
2015 je crois.
2015 ?
Oui.
Ah merde, ouais,
ok. Vous avez quel âge ?
J'ai 30 ans.
30 ans. Avec vous, on va revenir sur l'histoire du journal, son positionnement actuel, son modèle économique, mais aussi à travers votre parcours, les évolutions ou certaines évolutions de la droite en France. Dans Soft Power, on a reçu récemment la directrice de l'Obs, le PDG des Échos, le directeur de la rédaction du Monde, bref, et des dizaines d'autres par le passé. Donc on gère un espace pluraliste. Vous êtes prêts ?
Oui, merci pour cette invitation, Frédéric.
20h, l'invité innovation ce soir avec vous, Zoé Sez.
Il s'appelle Patrick Czarnicki, il signe un livre qui s'appelle « Les paradoxes de la coopération », c'est publié aux éditions Erol. Il revient sur cette tendance du management, tendance très lourde depuis les années 2010, initiée par évidemment les grandes entreprises de la Silicon Valley. Le tout collaboratif, les organisations horizontales, les sociétés qui sont censées être libérées par la coopération dans le travail. Il y a de gros biais dans ces nouvelles techniques de management, il explique pourquoi et il présente des clés aussi pour éviter ces biais. On en parle avec lui.
20h10, le club de la presse numérique. Nous parlerons de la démocratie en ligne à l'heure où le gouvernement lance le grand débat national. Et nous en parlerons avec Emmanuel Paquette de L'Express et Elliot Lepers, entrepreneur fondateur de ONG, le mouvement.ONG. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Une émission réalisée par Véronique Villa avec en régie Élise Le. Elle a été préparée par David Lavoie et pour les réseaux sociaux Clara Brelot. Vous pouvez suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, ainsi que sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Vous pouvez également nous suivre en podcast sur iTunes, sur l'application podcast de votre smartphone et même désormais, je crois, sur Spotify, évidemment, sur France Culture, jusqu'à 20h30 en direct. L'actualité, comme chaque semaine, au début de cette émission, avec nos chroniqueurs et invités. Peut-être je commence par vous, Geoffroy Lejeune. Vous êtes le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Hier, acte 10 des Gilets jaunes. Une question, non pas sur ce qui s'est passé hier précisément, mais comment est-ce que quelqu'un comme vous, et aussi comment Valeurs Actuelles, a compris ce mouvement des Gilets jaunes ? Quelle analyse vous faites du mouvement ?
Alors, mon analyse, elle va pas être très originale, mais moi j'ai le sentiment, si vous voulez, que en fait on a vu, la colère, peut-être presque l'insurrection de gens dont on entendait parler jusqu'à présent uniquement dans les livres et notamment dans les livres de Christophe Guillouis, c'est-à-dire en fait pour aller très vite la France d'en bas en fait, ce que lui il appelle la France périphérique.
Les périphéries.
Voilà, exactement. Et des gens qui étaient en fait des invisibles pour le pouvoir politique notamment, mais même aussi pour nous les médias, et qu'ils ont trouvé avec ce vêtement de couleur fluorescent une manière manière de se faire voir, une manière de, comment dire, de se rendre compte qu'ils étaient nombreux. Souvent, moi, j'étais frappé par cet exemple, mais ils se retrouvaient sur des ronds-points, ils réalisaient qu'ils vivaient pas très loin les uns des autres et qu'ils avaient les mêmes problèmes, mais en fait, ils ne se connaissaient pas. Et j'ai l'impression que tous ces gens-là ont fait société, en fait, dans la révolte des Gilets jaunes, et donc, que quelque part, cette colère qui était sourde, qui existait depuis longtemps, mais qui n'avait jamais été exprimée, s'est exprimée comme ça. Et moi, pour répondre à la question plus personnelle de comment je l'ai pris, je vais vous dire exactement ce que je ressens depuis le début. C'est une immense empathie pour ces gens, en fait. Une immense empathie parce que je pense qu'ils ont vraiment été abandonnés. Et je me suis beaucoup baladé dans les manifs à Paris au début parce que j'avais l'impression que c'était là que ça se passait. Et puis j'ai profité aussi des vacances de Noël. Enfin, moi, j'ai pris des vacances à Noël, en tout cas.
Vous êtes parti sur les ronds-points?
Je suis allé sur les ronds-points, j'étais à côté de Bourges en fait, et je savais pas, mais Bourges et cette région à côté de Montargis, Orléans, etc., c'était une région où il y avait beaucoup de gilets jaunes manifestement, et donc il y avait encore des ronds-points qui étaient pleins pendant Noël, et j'ai vu des gilets jaunes, j'ai discuté avec eux, et moi j'ai été extrêmement, comment dire, ému, touché par leurs histoires, par leur sort, par le rapport qu'ils avaient avec la politique, et par ce sentiment d'abandon, de dépossession qui est extrêmement fort, et je pense que l'enjeu majeur pour nous en France, mais surtout pour les démocraties occidentales en règle générale, puisqu'on sait que ce phénomène existe partout ailleurs, ce sera de répondre à cette colère et de d'y apporter une réponse et de changer quelque chose, parce qu'il demande un immense changement de paradigme, en fait.
Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais hier, Marine Le Pen, en présence de Thierry Mariani ainsi que du jeune Bardella, tête de liste aux européennes pour le Rassemblement National, ont tweeté une photo de leur voyage. Ils allaient au meeting du Thor dans le Vaucluse, meeting de rentrée. Enfin, il y a toujours des rentrées, mais c'est un nouveau meeting de rentrée de Marine Le Pen. Et ils ont tweeté cette photo. Ils étaient dans le TGV, tous les trois, en train de papoter apparemment. Il y a trois livres sur la table. Il y a le livre de Christophe Guilly, justement, que vous citiez, No Society. Il y a Gala, ça c'est une revue. Puis un troisième livre qu'on ne voit pas de manière très visible, mais on peut se dire, en fonction de la couverture un peu penchée et aussi des couleurs du papier, que c'est sans doute le livre de Michel Houellebecq. C'était un résumé pour vous de quelque chose, si c'était le Houellebecq, Guilly.
Qui lit Gala déjà pour commencer?
Ils sont trois, peut-être même quatre avec le photographe.
Oui, c'est intéressant que ces auteurs-là soient sur leur table. Alors en fait, pour dire la vérité, ils sont sur la table de tous les politiques. En tout cas, je le souhaite, en tout cas pour
Gala,
le cas de Christophe Guilly. Gala, c'est moins urgent. Mais Guilly, on en parlait, c'est celui qui a théorisé la fracture entre cette France-là et ses élites, ou en tout cas la France qui va bien. Et Houellebecq, il est en train de devenir l'écrivain de la France périphérique avec ce livre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il mettait en scène des personnages qui appartenaient plutôt à l'autre France, qui est la sienne. Lui, c'est quelqu'un qui va bien, hein, Michel Houellebecq, évidemment.
Il a décidé. Qui va bien, pas si bien que ça, si on en croit sérotonine, mais.
Oh, il va mieux à la fin. Il faut arrêter de dire qu'il est dépressif, c'est pas vrai. Et en fait, Michel Houellebecq a décidé avec ce livre-là de mettre le projecteur sur une détresse immense qui est celle des agriculteurs. Je pense qu'il a eu raison. Ce qui m'amuse, c'est qu'il a toujours, vous savez, cette petite préscience. Il choisit de faire ce livre il y a, je sais pas, 2 ou 3 ans, à un moment où on n'en parlait pas encore. Aujourd'hui, maintenant, c'est dans l'actualité, mais. Et en fait, il a eu raison. Je pense qu'il a profité de ça.
Il parle pas que des agriculteurs, mais il parle notamment des agriculteurs, notamment cette phrase très belle où il dit le plan social de l'agriculture dont BFM TV ne parle pas. C'est le plus gros plan social, mais un plan secret finalement.
Ouais, mais quelle lucidité et quelle phrase lumineuse. Moi, ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai lu ce passage, puisque c'est le narrateur et un agriculteur justement qui sont en train d'en parler. Et y a une
le narrateur, lui, il était chez Monsanto, il travaille au ministère de l'Agriculture.
Bien sûr, et il est en train de parler avec son ami agriculteur, et ils sont en train de discuter de ce fameux plan social. Et puis, très peu de temps après, dans le livre, dans la même conversation, le narrateur explique qu'il a croisé, quand il était notamment quand il travaillait avec Bruxelles, des gens prêts à mourir pour le libre-échange. Et cette phrase aussi m'a beaucoup frappé, c'est-à-dire que dans cette partie du livre, les deux passages, les deux France, les deux mondes qui s'opposent sont résumés, sont mis l'un en face de l'autre. Ils ne se parlent plus, ils ne se comprennent plus, et ça va mal finir. Ça finit mal. D'ailleurs, on vit ça en ce moment avec les Gilets jaunes. Ce sont des gens qui ne peuvent plus se comprendre.
Vous avez fait la une la semaine dernière sur Michel Houellebecq, la une de Valeurs Actuelles. Houellebecq, l'écrivain national, long article d'ailleurs que vous co-signez. Et c'est une figure importante pour vous, Michel Houellebecq ?
Très importante. J'ai co-signé l'article avec Charlotte Dornelas aussi, qu'il connaît bien. Importante pour plusieurs raisons, oui, parce que moi j'ai beaucoup d'affection pour lui, hein, je m'en cache pas du tout.
Déjà, vous n'êtes pas le seul, il a vendu près de 200 000 exemplaires apparemment
en deux semaines.
Ouais, et peut-être on dépassera de 150 000 selon les chiffres qui sortiront mardi.
Tant mieux pour lui, c'est génial, ouais, bien sûr. Oui, c'est très important pour moi.
Et qu'est-ce que vous aimez chez lui?
Alors, moi, déjà,
notamment dans Sérotonine, mais.
Moi, il me fait rire, voilà.
C'est assez drôle.
Pour commencer, Sérotonine est très drôle même par rapport aux autres, mais même les autres me faisaient rire, moi. Si vous voulez, je vais scinder en deux parties. Il y a le personnage, l'homme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que moi j'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas très longtemps, mais que j'ai eu la chance de côtoyer un peu et qui est quelqu'un que déjà je décrirais comme quelqu'un de gentil.
Donc pas misanthrope, contrairement à ses personnages.
Non. Alors, les êtres humains sont complexes, hein. Évidemment, il y a sans doute une part de misanthropie, mais moi, l'expérience que j'en ai eue, si vous voulez, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché parce qu'il est très gentil, très drôle en effet, très intelligent.
Regarde On n'est pas couché sans le son, c'est assez drôle aussi.
Thierry Ardisson fait pareil. Thierry Ardisson dit c'est bien la télé, les chaînes d'infos, ça donne l'heure, mais il met pas le son non plus.
Il vaut mieux que dans son livre Pour une fille de tourner dans un film porno plutôt que de faire des lectures de Blanchot sur France Culture. Donc voilà.
Ah, ça c'est pour vous les mal pris.
Ouais. Non, pas du tout. Non, ça me fait rire aussi. Libération qui n'est plus lue que par les intermittents du spectacle.
C'est
pas mal aussi. Ouais. Les 5 premières pages qu'il a lues, mais seulement les 5 premières de Christine Angot.
Non,
on pourrait en citer d'autres comme ça.
Il y a pas mal de petites piques un peu
perçues. Mais il y a des choses très sociales aussi. Ça c'est le deuxième aspect peut-être du personnage qui vous intéresse quand il dit notamment que l'appartement qu'on a acheté gagne plus que soi-même en termes de salaire, ou le fait que des gens en la vente d'un bien immobilier gagnent plus que la plupart des gens toute leur vie.
Et puis il y a quelque chose qui transparaît dans ce livre sur la question des agriculteurs, c'est qu'en fait il décrit une des rares catégories de travailleurs au monde qui se réveillent le matin en se disant qu'ils vont travailler dans la journée pour s'appauvrir. C'est quelque chose qui humainement est impossible à supporter de toute éternité, si vous voulez. C'est exactement l'inverse du travail, et en fait c'est ça qui met bien en lumière, et c'est pour ça que la détresse est immense dans le livre.
La phrase la plus terrible sur ça, c'est, si je me souviens bien, à un moment l'agriculteur dit j'essaie de faire du bio, j'essaye de travailler bien, je n'utilise pas comme il faut les pesticides, etc. Et au plus je fais les choses bien, au moins je gagne ma vie.
Bien sûr. Et donc pour revenir à votre question, ce que j'aime chez lui, si vous voulez, c'est que c'est un écrivain, on a titré l'écrivain national, c'est pas une formule de nous d'ailleurs, c'est une formule du philosophe Aurélien Bélanger qui a écrit ça il y a quelques années.
Écrivain, ouais.
Il a dit qu'il était devenu un écrivain national le jour où les frères Kouachi ont fait la tuerie de Charlie Hebdo, parce qu'en fait ce jour-là, c'était tellement en résonance avec son livre, à l'époque il sortait Soumission le même jour, qu'il est devenu un écrivain national. Je pense que c'est assez vrai, assez juste. Il a des intuitions, il a un génie de la description des situations, qui fait qu'aujourd'hui c'est celui qui, à mon sens, en littérature comprend le mieux. C'est pour ça, je pense qu'il a un si grand succès, le pays dans lequel on vit. Voilà, c'est pour ça que.
Mais en même temps, c'est très 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 anti-moderne. Très...
Oui, ça j'aime bien, ça, anti-moderne. Mais par ailleurs,
il y a un petit côté hussard même, sans doute. Ça vous rappelle des souvenirs, comme à toute figure un peu de droite, comme ça, iconoclaste, un peu décalé, connecté.
Mais je suis d'accord avec vous sur le côté hussard, sur le côté anticonformiste, anti-moderne, un peu punk aussi. Moi, j'aime beaucoup ça chez lui. Maintenant,
punk, c'est à cause de ses cheveux, c'est ça.
Oui, le look, tout va dans ce sens-là. Maintenant, il y a quelque chose aussi, il faut le dire, parce que pour être complet, c'est que Michel Houellebecq, c'est pas l'écrivain non plus de Valeurs Actuelles. Sa force, c'est qu'il parle à tout le monde aussi. C'est l'écrivain de Valeurs Actuelles et des Inrecuptibles, et il est adoré par les Inrecuptibles pour d'autres raisons, mais si vous voulez, c'est pour ça que je dis que c'est un écrivain national. C'est parce qu'en fait il s'adresse à tout le monde, et tout le monde peut se retrouver dans ses livres. Il y a quand même, enfin, vous avez cité tout à l'heure ces chiffres de vente qui sont excellents, des gens de gauche, de droite, du centre. Je sais que Bruno Le Maire adore Michel Houellebecq, de la même manière que Nicolas Sarkozy, une fois j'en avais discuté avec lui, adore Michel Houellebecq.
À un moment il dit il semble qu'Emmanuel Macron était président de la République.
Oui.
Phrase formidable.
Oui, parce qu'on
n'en est pas bien sûr.
Oui, c'est drôle, c'est très drôle. Emmanuel Macron lui-même.
Mais en même temps, il n'y a pas de style, ou alors c'est le style du non-style. Comment vous définiriez ça?
Moi, je suis pas critique littéraire, je suis pas spécialiste de ça. J'ai beaucoup entendu parler du non-style de Houellebecq. Moi, je suis désolé, je trouve qu'il y a une langue houellebecquienne qui est un peu inimitable, et que cette manière de raconter une histoire avec ces espèces de je saurais même pas trouver le terme, mais systématiquement des incises dans les phrases, des pirouettes.
Ce qu'il vient de dire.
Et c'est extrêmement, voilà, vous avez trouvé le mot, c'est extrêmement lié, c'est très agréable à lire. Et moi, j'appelle ça un style, hein. Je trouve que c'est vraiment bien écrit.
Et en même temps, du fond, c'est-à-dire, par exemple, toute cette théorie de l'enchaînement des circonstances qui mène à l'échec, ou l'incapacité de cet individu, pas très sympathique malgré tout, à reprendre sa vie en main.
En fait, je me pose souvent la question, comment il sera jugé dans 200 ans par les gens qui liront ses livres comme nous on lit ceux de Balzac. Et je pense qu'il aura raconté l'histoire de il utilise le mot d'ailleurs dans Sérotonine, de l'écrasement intérieur de l'homme occidental d'aujourd'hui.
Oui, c'est un peu le mal blanc vaincu.
C'est ça, la mort du mal blanc exactement, et il le raconte pour le coup dans tous ses livres. C'est sans doute le fil rouge, la tendance lourde de ses livres, et je trouve qu'il le fait très bien et que c'est complètement accablant, c'est désespérant. Mais par ailleurs, comme il est drôle et qu'il a une justesse d'analyse, vous avez raison, il y a beaucoup de fond dans ses livres. Systématiquement, il s'attaque à un sujet et son sujet est traité. C'est-à-dire que là, par exemple, les agriculteurs, le sujet vraiment est traité. Et après, il y a l'autre question de l'amour.
Oui, avec tout, avec Monsanto, le ministère de l'Agriculture.
Exactement.
La fille dont il tombe amoureux, d'ailleurs, la stagiaire qui est choquée par ce qu'elle voit de la manière dont on s'occupe des animaux. Puis il dit à un moment cette phrase formidable, je m'égare, revenons à mon sujet qui est moi. Ce n'est pas qu'il soit spécialement intéressant, mais c'est mon sujet, un peu rousseauiste comme ça.
Ça me fait rire, je trouve ça drôle ce genre de formule. C'est ça le style de Houellebecq. Et puis il y a quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est que habituellement ces livres se terminent par une sorte de long dégagement, vous savez, où tout à coup l'action s'arrête et puis il raconte 30 ans en 30 pages et tout est figé, plus rien ne bouge. Et là, moi je trouve que pour une fois dans ce livre, moi ça m'a arraché des larmes. Il y a une ouverture qui est sublime, la fin du livre est sublime et il y a un espoir qui n'est pas habituel chez Houellebecq, que je trouve formidable. Je sais pas du tout à quoi c'est dû. Je saurais
même
pas
si ces théories philosophiques et littéraires sont parfois un peu fumeuses.
On peut les contester, mais en tout cas, il y a la volonté pour une fois d'ouvrir vers de l'espoir et notamment vers du divin. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique de sa part.
Et une dernière. Le problème est que je n'ai pas de milieu précis. Quelque chose de très fort dans cette phrase, au fond. Quelqu'un qui... Et ça, c'est un peu les gilets jaunes, pour le coup. On n'appartient plus à... Ni on se sent d'un pays, ni on se sent d'un village parce qu'on est devenu une périphérie, un carrefour. On a perdu le sens du dialogue. On est un peu isolé comme ça dans sa misanthropie, qu'il décrit très bien.
C'est vrai, il le décrit extrêmement bien dans les 340 ou 350 pages de Sérotonine. Il décrit un être déraciné, en fait. Et donc, moi, je pense que c'est un des maux du siècle. Et lui, il met en scène toutes les conséquences, les pires conséquences, jusqu'à ce que ce narrateur soit complètement désespéré. Ouais, vous avez raison, je suis d'accord avec vous.
Vous êtes catholique, je crois, catholique
oui.
pratiquant, enfin, sans,
oui, oui.
sans vouloir
si, non, non,
parler de vie privée. On peut aimer Houellebecq, je sais pas, la zoophilie canine et tout le reste quand on est catholique.
Ah oui, je veux dire, je n'aime pas la zoophilie canine, mais
vous la pratiquez pas, celle-là.
Pas du tout. mais je trouve Houellebecq drôle quand il en parle. Cette page, elle m'a fait évidemment sursauter, comme je pense que c'était le but, hein, d'ailleurs. Mais non, ça me dérange pas. Moi, je suis pas très puritain. Enfin, je veux dire, je le suis dans les faits, mais je suis pas choqué parce que je lis notamment, parce que la littérature, ça me dérange pas. Je l'aurais vu dans un film, à la limite, peut-être. On aurait pu en discuter. Honnêtement, cette page m'a fait plutôt rigoler.
Après, un petit mot sur le Houellebecq en actualité sur les Gilets jaunes. Zoé Sfez, actualité plus média, plus soft power cette semaine. Le CSA a un nouveau président.
Il s'appelle Roch-Olivier Maistre, il a 63 ans, il est énarque, il est passé par la mairie de Paris où il a été chef du bureau du théâtre. Il est monté jusqu'à devenir dans les années 2000 le directeur général de la mairie sous Thibéry. Il a été conseiller culturel aussi d'abord de François Léotard et ensuite de Jacques Chirac. Donc c'est un Chirac. On peut le dire. Et depuis 2005, il était à la Cour des comptes. Alors, c'est un homme, c'est un énarque, c'est un homme de droite. Alors que, clairement, parmi les favoris, on évoquait hein, récemment quasiment toujours des profils de femmes. Les noms qui circulaient le plus, c'était Frédéric Bredin, la présidente du CNC, Sylvie Hubach, ancienne directrice du cabinet de François Hollande. Et puis surtout, celle qui avait la plus grosse cote, c'était Isabelle Falque-Pierrotin, la présidente de la CNIL. Parce que vous le savez, le CSA est peut-être, en tout cas, c'est attendu à l'aube d'un profond bouleversement. En tout cas, on n'en sait rien, mais on sait qu'à l'été, une réforme devrait peut-être redéfinir son rôle. Il était question, il avait été envisagé de potentiellement fusionner, par exemple, le CSA avec la CNIL. Donc la nomination d'Isabelle Falque-Pierrotin aurait donné des indices sur cette voie-là. Finalement, elle a été nommée parmi les 5 garants du grand débat national. Donc finalement, elle n'est pas en lice. C'est donc Roch-Olivier Maistre qui prend la suite d'Olivier Schramek. Olivier Schramek, son mandat se termine officiellement mercredi prochain. C'est le 23 3 janvier, avec un bilan...
Qu'il a lui-même fait, pour une part, que la presse fait également, de son côté.
Il dit clairement qu'il a fait le maximum.
Il a fait ce qu'il a pu.
Qu'il a fait ce qu'il a pu, avec évidemment deux polémiques énormes sur les deux nominations des deux présidents, d'abord de Radio France, puis ensuite de France Télévisions, des grosses difficultés à gérer la crise, enfin en tout cas la prise en main de Canal+, par Bolloré. Et donc voilà, donc ce bilan de Schramek, d'Olivier Schramek, reste, disons, compliqué. Olivier Schramek qui, lui, dans son rapport, le rapport qu'il a remis avant de quitter ses fonctions, laissait entendre que s'il n'y avait pas fusion avec la CNIL, il pourrait y avoir fusion avec l'ARCEP. L'ARCEP qui est aujourd'hui dirigée l'ARCEP a été dirigée par une Marie-Laure Denis. Marie-Laure Denis qui, elle, serait pressentie pour prendre la tête de la CNIL. Vous voyez le jeu de chaise musicale auquel on s'attend. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, le CSA pourrait être modifié par cette fameuse réforme de l'audiovisuel public qui devrait intervenir avant l'été. Est-ce que le CSA fusionnera avec l'ARCEP ? Est-ce que le CSA perdra ou gardera le pouvoir de nomination des présidents des deux de l'audiovisuel public ? La question se pose toujours et cette nomination ne nous donne pas beaucoup d'indices sur ce qu'il se passera dans l'année 2019.
On verra en tout cas si des fusions-acquisitions, pourrait presque dire, ont lieu entre CSA, on parle aussi de l'ADOPI, la CNIL, pourquoi pas l'ARCEP. Dans un instant, on parle de Valeurs Actuelles avec Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Mais juste avant, pour clore cette séquence d'actualité par une actualité musicale, un mot sur The Cranberries. Un an après le décès de sa chanteuse Dolores O'Riordan, The Cranberries vient de sortir un titre intitulé All Over Now, qui annonce un nouvel album pour avril. C'est un album hommage construit à partir des démos des voix enregistrées par l'artiste juste avant sa disparition. Sur 19h23 avec The Cranberries, vous aimez bien ça, je prends le jeune.
Ça me rappelle quand j'étais jeune, quand j'apprenais à jouer de la guitare, je crois que c'était sur.
C'est votre époque grunge.
Non.
Vous avez encore les cheveux longs de, comment dire, un peu.
Je saurais pas dire d'ailleurs quel a été leur âge d'or, Cranberries, mais j'écoutais ça quand j'avais 15 ans, quoi, donc j'aime bien. Ouais.
Bah voilà, il y a un nouvel album, ça continue, hein, même quand on n'a plus 15 ans. Il y a 15 ans après. Je commence cette partie consacrée plutôt à Valeurs Actuelles à vous. Vous avez 30 ans, on l'a dit, vous êtes né à Avignon, après tout, ça vous rend sympathique, hein. Il y en a d'autres. La droite que vous incarnez, et non pas simplement Valeurs Actuelles, mais peut-être votre droite à vous, comment est-ce que vous la voyez, si on prend la définition, une des définitions données notamment à l'époque par François Furet et Mona Ozouf, la droite c'est la passion nationale, l'ancrage religieux, la superstition des traditions. Ça vous parle ?
Oui, pourquoi pas.
Catholique d'une part, vous êtes catholique.
Oui, alors c'est marrant parce que j'ai pas de problème à l'assumer si vous voulez, mais c'est en revanche en fait je suis très anti-communautariste en règle générale et du coup
c'est votre truc à vous, un peu privé finalement, personnel.
Oui, et surtout en fait je supporte pas le communautarisme en règle générale et encore moins celui des catholiques.
Mais c'est
en
quoi
fait.
Le communautarisme catholique ?
Non, mais c'est le côté, c'est le fait de qu'une conviction religieuse devienne le moteur de l'engagement politique. Si vous voulez. Je considère que je supporte pas ça.
Donc le clergé cléricalisme, vous êtes très opposé
par exemple,
à ça.
Par exemple.
Mais pourtant, par exemple, je ne sais pas, vous avez défendu le cardinal Sarah, peut-être même vous publierez les prochaines bonnes feuilles de son prochain livre qui sort en mars.
Si j'en ai l'occasion, bien sûr. Non, mais j'ai pas de problème parce que les curés, en l'occurrence, un évêque, un cardinal.
C'est même un cardinal.
Oui, s'exprime sur des questions politiques en son nom. Ce que je veux dire,
c'est... Là, c'est du cléricalisme. C'est comme, je ne sais pas, Philippe Barbarin ou Michel Petit, ils pensent que parfois la Bible est plus importante que la loi française et qu'elle est au-dessus de la loi française.
Ah, je ne pense pas que vous les ayez entendu.
Ah, Philippe Barbarin a dit ça textuellement clairement, et Robert Sarah dit ça tout le temps.
En fait, c'est pas pareil. L'homme d'église, entre guillemets, il est dans son rôle, dans son registre. Moi, ce qui me crispe, c'est les gens c'est pas les ecclésiastiques, en tout cas les officiels, mettent ça en avant. C'est la première cause, le premier engagement, etc. Voilà. Moi, c'est ça qui me. En tout cas, moi, je suis pas comme ça. Et donc, sur tous les sujets, je me pose la question comme si j'étais pas croyant. Voilà.
Au-delà du catholicisme ou de l'ancrage religieux dont je parlais, la passion nationale, les traditions.
Les traditions, ça dépend lesquelles, hein, si vous voulez. Mais oui, dans l'idée, quand on est en général à droite, on est un peu plus attaché aux traditions que quand on vient de l'autre bord de l'échiquier politique, où il faut plutôt le progrès, c'est plutôt de faire table rase de ce qui est ancré. Moi, oui, je me sens plutôt attaché aux traditions, à des traditions. J'aime bien ce qui demeure en fait. Donc ça, j'accepte cette partie-là. Et la passion nationale, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais disons que mon petit cœur bat quand je vois des drapeaux bleu, blanc, rouge et quand on gagne la Coupe du Monde, déjà, pour commencer.
Mais ça, c'est le cas de beaucoup de Français, quand même.
Bah oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui, sans le savoir, sont de droite, vous savez. plus sérieusement, il y en a pour qui c'est pas un sujet, qui se sentent pas plus que... Je me souviens, j'avais des grands débats parce que j'étais au lycée au moment de la Constitution européenne, et donc on parlait dans ma classe de est-ce qu'on est plutôt Français ou plutôt Européen. Et il y avait vraiment un clivage. Il y en avait qui se sentaient projetés, appelés vers un destin de la Constitution. Leur être était constitué par le fait d'être Européen. C'était donc ma génération, donc moi je suis né en 88. Et moi, je me sentais pas comme ça. Et voilà, je pense que ça.
Mais on peut être les deux à la fois, non? On peut pas être français et européen.
Bah à l'époque, dans le débat, si vous voulez, il fallait savoir si on allait choisir européen ou si il fallait qu'on restait français. Mm-hmm. On avait choisi de rester français, puis voilà.
Quelles sont vos passions intellectuelles, littéraires? On vous sait proche de Éric Zemmour, notamment. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Une élection ordinaire, très centré autour de la figure d'Éric Zemmour, on peut le dire. Vous avez aimé Son destin français, livre qui a eu un certain succès cet automne, qui réhabilite non pas Pétain, ce serait exagéré de dire ça, mais en tout cas Robespierre, Napoléon, Jeanne d'Arc.
Il est très surprenant ce bouquin parce que justement il réhabilitait Robespierre, il disait beaucoup de mal au moment où il s'attarde sur la question de Jeanne d'Arc. Au lieu de parler de Jeanne d'Arc, on pouvait s'attendre à ce qu'il exalte Jeanne d'Arc, pas du tout, il choisit d'attaquer l'évêque Cochon. Il y avait beaucoup de chapitres extrêmement surprenants. Moi j'ai bien aimé ce livre, j'ai trouvé très intéressant.
Côté iconoclaste, vous plaît, hussard en fait, finalement.
Exactement, ouais, j'aime bien ça et il sait se mettre en danger, si vous voulez, ce livre en fait, il faut imaginer se mettre à sa place. Il avait vendu 500 000 exemplaires avec le suicide français, il choisit de faire un livre d'histoire, donc déjà c'est une première mise en danger. Il a travaillé beaucoup. J'en avais parlé avec lui à l'époque. C'est vraiment un livre. Il a été contesté par des historiens pour sur le fond.
Puis il y a aussi la polémique avec Absatoussi, qui devrait s'appeler Corinne.
Ouais, pour le coup, qui n'avait rien à voir avec le bouquin.
Le livre. C'est,
d'ailleurs, je pense que ça l'a pas forcément servi, Zemmour. Moi, ce que j'ai trouvé courageux de sa part et bien, en fait, c'est qu'il a pendant 3 ans travaillé, lu des livres d'histoire, etc. Et après, il a fait son livre d'histoire, son histoire de France. C'était un vrai boulot et ça, faut le reconnaître. Et ensuite, en effet, il sait se remettre en question. Il est assez iconoclaste et moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça assez déroutant et très intéressant de bout en bout. J'ai vraiment aimé ce bouquin.
En littérature, vous lisez quoi par exemple?
Écoutez, je vais vous surprendre peut-être, mais j'aime bien, j'ai des bonnes surprises.
On a parlé de Houellebecq déjà.
Oui,
en
oui,
plus de
Houellebecq. Pas vous reparler de Houellebecq, évidemment. J'ai des bonnes surprises dans la littérature contemporaine, par exemple. J'ai beaucoup aimé un livre d'amour, enfin une histoire d'amour, qui est sorti il y a quelques années, mais je le cite parce que c'est une de mes surprises ces dernières années. C'est En attendant Beau Jungles d'Olivier Bourdeau, qui c'était son premier livre. Et c'était un type en plus qui a une histoire marrante. Il était en fait au chômage, il avait jamais écrit, il voulait être écrivain, et tout à coup il a écrit pendant 6 semaines d'un jet de plume. Une histoire complètement dingue, extrêmement bizarre, et il a rencontré un succès incroyable. C'est une belle histoire, j'aimais cette histoire.
À propos de cette chanson, justement.
Bien sûr, exactement.
Nina Simone.
Quelle réactivité.
Ouais. Bojangles. On arrive en 2 secondes sur France Culture à vous trouver la musique dont vous parlez, et pourtant on est en direct.
Vous voulez que je lance des défis à la régie?
Qu'est-ce que vous lisez d'autre? Donc là, en l'occurrence, c'est Olivier Bourdeau, D-E-A-U-T, en attendant Bojangles, publié chez Folio, Gallimard?
J'ai pas de goût particulier. J'aime beaucoup le classique, évidemment. J'en ai lu beaucoup quand j'étais petit, donc j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. J'aimais bien lire. Donc j'ai lu de Zola quand j'avais 15 ans.
Grand auteur de droite, bien connu.
Ouais. Oui, non, mais c'est pour ça que je suis peut-être pas aussi. Je suis peut-être pas aussi
catalogable,
systématique que je devrais. Voilà, il faudrait que je lise plus d'auteurs de droite. Il y a pas mal d'auteurs de droite que j'ai pas lu.
Dans les classiques, les Hussards, par exemple, ça vous parle? Les fameux quatre, la bande des quatre.
Bien sûr, ça m'a beaucoup parlé. Un peu plus âgé, entre 20 et 25 ans, parce que pour le coup, j'aime l'esthétique des Hussards. En fait, vraiment ce côté.
Et des quatre, vous préférez qui?
Blondin.
Plus que Nîmier.
Beaucoup plus que Nîmier pour le côté je m'en foutiste un peu.
Michel Déon, c'est trop Académie française et trop ringard.
Ne faites pas dire du mal de l'Académie française. Mais
Laurent, voilà, il y a peut-être des gens qui aiment encore Jacques Laurent.
C'est celui qui m'intéresse le moins.
Bah oui, il intéresse personne, le pauvre.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu l'oublié de la bande. Nîmier, malgré le destin effroyable et
mais
la
c'est
mort.
C'est beau quand même Nîmier. Ouais.
Oui, mais en fait moi j'aime vraiment le personnage de Blondin. En fait, peut-être qu'il faut que je m'attache au personnage pour aimer les livres et c'est peut-être un défaut que j'ai. Et Blondin, j'aime bien son côté vraiment j'aime beaucoup le Blondin du sport aussi également, donc celui qui écrivait dans l'Équipe, celui qui racontait le Tour de France, et évidemment j'aime beaucoup le rugby puisque je viens du sud de la France, donc je suis attaché à ce personnage.
Le rugby à 13 ou le rugby à 15?
Mais j'ai jamais joué au rugby à 13, je trouve ça c'est quand même très dur, physiquement très dur. Par contre rugby à 15, j'aime énormément, évidemment j'ai eu la chance d'en faire un peu.
Des gens comme Jean Edernalier, ça vous parle aussi?
Il est marrant, il est très marrant, j'ai du mal à comprendre il est vraiment drôle. J'ai lu un bouquin sur sa vie il y a quelques années. C'était un personnage que ça m'aurait sans doute fait rire de fréquenter. Il était un peu fatigant aussi au quotidien.
Un peu alcoolique, sans doute.
Et aussi un peu alcoolique. Non, mais il était complètement fou, surtout. Je trouve ça, rigolo, assez amusant de son histoire.
Des gens comme Jean-René Huguenin?
Je connais pas. Je connais pas.
Des gens comme Patrick Buisson, pour prendre une figure moins drôle peut-être que Jean Edernalier.
Ouais. Ils sont connus, je crois qu'ils sont bien connus.
Oui, absolument. Ouais.
Patrick Buisson, moi j'aime bien Patrick Buisson. Je le trouve, si vous voulez, vraiment brillant pour comprendre les mouvements d'opinion. Enfin, en fait, son métier d'origine, quoi. Je suis souvent, d'ailleurs, de temps en temps, en interview dans Valeurs Actuelles, quand il se passe quelque chose dont on imagine que ça va faire bouger les lignes de l'opinion, et il arrive à vous expliquer. Alors peut-être qu'il se trompe, mais en tout cas, il arrive à produire une analyse conséquente, cohérente, et à dire quelque chose d'intéressant sur une situation. Je prends l'exemple des Gilets jaunes parce qu'il n'y a pas longtemps on l'a fait. Il avait vraiment une analyse originale et moi j'ai trouvé son bouquin, et honnêtement même des gens qui ne sont pas de son bord politique vous le diront et d'ailleurs l'ont dit publiquement, La cause du peuple était un grand livre politique. Honnêtement, pour justement l'avenir de la droite, les nouveaux clivages, lui il plaide évidemment pour l'abandon du libéralisme par la droite, et la démonstration était incroyable. J'observe par contre qu'il est en train de perdre politiquement parce que en fait son grand combat, le combat de sa vie, c'était de faire l'alliance entre l'électorat classique de la droite, la bourgeoisie traditionnelle, les notaires de province, avec l'électorat populaire, ce qu'il a réussi une fois avec Nicolas Sarkozy à faire. Et depuis, toute l'histoire de la droite, c'est la séparation de ces deux électorats. Aujourd'hui, c'est qu'ils sont quasiment hermétiques et ils ne se parlent plus. Donc je pense qu'il a perdu politiquement, mais ça l'empêche pas d'être brillant et d'avoir une culture historique qui, moi, m'impressionne. Honnêtement, ce bouquin était vraiment bien.
On va revenir sur ces questions politiques pures. Renaud Camus, pour terminer.
J'ai pas lu. Je regarde ses tweets de temps en temps. Il a le sens de la formule.
J'avais lu un portrait. Mais il a perdu son talent en tant qu'écrivain, non?
Et écoutez, je peux vraiment pas vous dire. Honnêtement, je vous le dirais si je le pensais, mais je peux pas vous le dire. J'avais lu un portrait de lui dans l'Obs il y a quelques années qui m'avait un peu fasciné. C'est un destin un peu étonnant, quoi. Voilà, cette espèce d'icône, un moment de la gauche qui devient une icône de l'extrême droite. Et je le connais pas. Je l'ai croisé une fois à Béziers. Robert Ménard organisait des rencontres où j'étais. Et c'est un type, comment dire? C'est un type romanesque, personnage romanesque.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture, en direct un peu après 19h30, je reçois ce soir Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Alors on en parlait de vos références culturelles, littéraires, un peu intellectuelles. Venons-en peut-être avec vous, Zoé Sfez. Venons-en à Valeurs Actuelles lui-même, le journal, rentrant un peu dans la machine Valeurs Actuelles. Et peut-être pour commencer, au fond, votre projet, c'est d'accueillir tout le monde, toutes les droites, je dirais de Bayrou à Le Pen.
Exactement. Vous avez bien résumé le projet, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je considère que peu importe ce qu'on pense, on est. Et d'ailleurs, vous dites toutes les droites, même d'autres. On a fait polémique il y a pas très longtemps en donnant la parole à Alexis Corbière, le pauvre, ça lui a valu beaucoup d'ennuis.
Alexis Corbière est de droite pour vous ?
Non, justement. C'était peut-être l'idée. C'est ce que dit Marine Le Pen tout récemment en disant que les gilets jaunes ont permis de montrer des liens entre la France insoumise et son parti.
Si je peux me permettre de défendre Alexis Corbière, ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie, mais je vais le faire. En fait, c'est une interview qu'on lui avait proposée avant Noël, à un moment où la question de l'alliance Le Pen-Mélenchon se posait absolument pas. Et il avait accepté parce que c'est un type ouvert d'esprit. Moi, j'aime bien les gens ouverts d'esprit qui, même si on a énormément de désaccords, est d'accord pour venir discuter, se confronter, etc. Ça fait des interviews super intéressantes, en fait. Et donc, on fait cette interview avant Noël et on la publie après Noël, à un moment où tout à coup, le sujet médiatique devient, attention, Le Pen-Mélenchon ne serait-il pas super proche? Et donc, évidemment, il a eu beaucoup de problèmes. Mais je vais répondre en deux temps à votre question. Évidemment, d'accueillir tout le monde à droite parce que je veux pas, moi, indépendamment de ce que je pense, je veux pas du tout rendre le journal prisonnier des opinions personnelles des journalistes. C'est-à-dire que nous, on sert un lectorat avant tout, qui a le droit d'être de pouvoir tout confronter, de pouvoir se faire une opinion sur Bayrou, sur Hervé Morin, Jean-Christophe Lagarde, tout ce qu'il y a jusqu'à Marine Le Pen, évidemment.
Et même Jean-Frédéric Poisson, ne l'oubliez pas. Hein.
Bien sûr, non, mais je l'oublie pas. Je ne vais pas tous les citer parce qu'on en a pour un moment. Ils sont de plus en plus nombreux, mais aussi également à gauche. Alors après, nous, on publie ceux qui sont d'accord pour parler chez nous. Et on a beaucoup de refus quand on fait des demandes à gauche, mais récemment ça a pas mal changé. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais on a fait un portrait de Ségolène Royal qui a été cité dans le papier, qui avait rencontré longuement les deux journalistes Tuguel Denis, Louis Dragnel, qui avait fait ce portrait. On a fait cette interview d'Alexis Corbière, on a fait des interviews récemment.
Le nouvel Obs des années 70. Quoi. Toute la gauche et là il y a toute la droite.
Ça me fait plaisir parce qu'en fait c'est un peu le projet exactement.
C'était pas mon objectif de vous faire plaisir, mais bon.
Non, mais le nouvel Obs des années 70,
c'était un modèle.
Voilà, exactement, bien sûr.
Zoé Sfez.
Mais justement, il a beaucoup bougé. Ce qu'il faut essayer de rappeler un peu l'histoire de ce journal. Ce journal, il date de 66, il a été fondé par
Raymond Bourgine.
Et avec cette double ligne définie à l'époque par le président du comité éditorial, libéral en économie, conservateur sur la société. Est-ce que c'est toujours vrai? Parce qu'il y a eu un énorme tournant, notamment en 2012.
Non, c'est toujours vrai.
Libéral en économie?
C'est toujours vrai. Si vous lisez les pages économiques du journal, honnêtement, elles sont pro-business, pro-entreprise, etc. Maintenant, j'anticipe votre question, enfin, j'essaie de répondre à votre question en tout cas. C'est vrai qu'en ce moment, à droite, il y a un énorme questionnement sur le libéralisme. Est-ce qu'il faut continuer, etc. Et la réponse est plutôt non. En tout cas, si on en croit les électeurs de droite, on a l'impression qu'ils tournent le dos au libéralisme. Moi, je me pose cette question. Je pense que tout le monde se la pose, y compris les libéraux eux-mêmes. L'autre jour, j'étais dans une matinale télé sur LCI et j'ai croisé Geoffroy Roux-de-Bézieux, son successeur, le patron du MEDEF. Et on a discuté quelques minutes avant qu'il fasse son entretien politique. Et on parlait de ça. Et même lui se pose la question, si vous voulez, de l'avenir du libéralisme et du capitalisme. Il m'a montré un graphique sur son téléphone qui montrait que la mondialisation.
C'est-à-dire que c'est une ligne de fracture au sein de la droite, alors qu'il y a l'union en certain nombre de textes, de thèmes. Là, il y a une vraie séparation.
Il y a une vraie séparation. En tout cas, il est en train de se produire une vraie séparation. Et pour moi, puisque moi, je ne veux pas tellement que le journal tranche dans un sens ou dans l'autre, pour moi, une source de questionnement, si vous voulez. C'est un sujet extrêmement intéressant.
Comme l'Europe, comme l'écologie, la croissance aussi, la manif pour tous. C'est des thèmes qui clivent à droite.
Exactement.
Alors que sur l'islam, il y a unanimité. L'identité.
L'immigration, il y a une unanimité, bien sûr. Et sur cette question-là, de plus en plus, et les gilets jaunes surtout sont en train de faire apparaître encore plus ce clivage, il y a un questionnement. Mais en fait, c'est un questionnement qui touche les libéraux eux-mêmes. Les gens se disent, on ne pourra pas continuer à vendre ce modèle-là. Donc, le graphique de Geoffroy Roux-de-Bézieux était très intéressant. Il montrait que les classes moyennes des pays émergents s'étaient extraordinairement enrichies grâce à la mondialisation ces 40 dernières années, et que les grands perdants de ce système étaient les classes moyennes de l'Europe occidentale, de l'Occident, pardon, de l'Europe et des États-Unis. Et il m'a dit, voilà, on peut pas continuer comme ça, on se pose la question. Voilà. Bon, je pense que son questionnement est légitime et j'ai le même.
Mais justement, alors, en 2012, il y a l'arrivée d'un homme qui s'appelle Yves de Kerdrel et qui va faire passer, justement, en gros, valeur actuelle de 5000 exemplaires par semaine à plus de 20 000, 30 000, certains mois. C'est vous lui qui vous a recruté, si je me trompe pas.
Non, j'étais avant lui.
Vous étiez là avant lui. Mais c'est lui qui vous a fait monter.
Oui, c'est grâce à lui que je suis monté au sein du journal, évidemment.
Et alors lui, c'est intéressant parce que lui, il venait du Figaro et des Échos, donc presse de droite tout à fait traditionnel et tout à fait libéral. Pour rappeler, il a été membre du comité sur la libération de la croissance française avec Jacques Attali, qui préconisait d'ailleurs une immigration plus importante pour pouvoir redynamiser la croissance française. Donc un profil assez classique. Il semblerait, d'ailleurs, il le racontait beaucoup lui-même, puisqu'il est resté donc directeur de cette publication jusqu'en 2015, si je ne m'abuse.
2016. Non, il est parti l'année dernière.
Il est parti l'année dernière, 2017, mais il est toujours éditorial, c'est ça ? Il est toujours éditorialiste, pardon.
Il a continué quelques mois et il a arrêté il y a un mois et demi, je pense.
Et pourquoi donc ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est lui, finalement, qui a signé ce qu'on a appelé aussi la droitisation de la droite de cette ligne éditoriale de Valeurs Actuelles, avec cet épisode qu'il racontait souvent. Il aurait fait ce qu'on appelle un vulu. Un vulu,
c'est vrai, il a fait ça.
Ouais. C'est ça, c'est-à-dire une réunion où vous avez des lecteurs qui commentent un journal et derrière une glace sans pain, vous avez les directeurs de la rédaction. Et il dit avoir eu une épiphanie à ce moment-là et donc avoir amorcé avec ces unes très, 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 très polémiques ensuite qui ont fait vendre beaucoup de papiers. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans cette rédaction ?
Mais l'histoire est vraie, hein, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a tout simplement écouté ce que les lecteurs, en tout cas un panel représentatif de lecteurs, lui disaient. Et les lecteurs disaient ce qu'ils avaient envie de lire, en tout cas le journal qu'ils avaient envie d'avoir entre les mains. Et donc, il a fait ce journal-là, en fait. Et jusqu'à présent, enfin, moi, j'y étais depuis un an et demi quand il est arrivé. Et jusqu'à présent, la question ne se posait pas. Et tout à coup, il a impulsé un cap. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, si vous voulez, il y a eu fondamentalement, c'était pas vraiment une droitisation du journal. C'était plus
alors,
le
c'est
ton.
À ce moment-là qu'on a quand même des unes pour lesquelles, sur certaines unes, d'ailleurs, vous avez été condamné. Lui a été condamné pour incitation à la haine raciale. Rome, l'overdose. Rome. L'invasion que l'on nous cache. Là, on parlait de la naturalisation et l'ayatollah sur Najat Vallaud-Belkacem. Donc là, on est quand même sur une droitisation.
Je crois pas qu'il y ait eu de condamnation pour l'ayatollah parce que c'était pour le coup vraiment, enfin, on nous a fait, moi, c'est les deux autres, honnêtement, on peut en parler si vous voulez. L'ayatollah, c'était un procès d'intention. On n'avait pas la volonté d'attaquer Najat Belkacem pour ses origines, pas du tout. Il y avait vraiment un dossier qui était vachement bien sur ses prises de position idéologiques, enfin bref. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, là où je vous dis que c'est pas une droitisation, c'est qu'on disait la même chose dans le journal avant. On avait les mêmes positions, les mêmes analyses, les mêmes Et ce qu'il a fait, il y avait une dimension un peu marketing, c'était de faire des couves choc, voilà. Et il a fait des coups de choc pendant
C'est le même problème sur la une Soros, le milliardaire qui complote contre la France, avec une photo particulière, un article très dur, beaucoup ont considéré que cette une était antisémite.
Alors, en fait, moi, j'ai pas vraiment la même approche. C'est-à-dire que je renie rien des années que j'ai passées avec Yves de Kermel. Mais, moi, par fibre personnelle et aussi parce que c'est comme ça que je pense que, enfin, c'est les journaux que j'aime lire qui sont comme ça. Je considère que ça sert à rien de hurler, ou en tout cas, j'ai pas envie de hurler plus que de mesures sur tous les sujets, y compris les sujets les plus sensibles. Donc moi, vous pourrez vérifier, depuis que je suis en poste, ça fait quelques temps maintenant, je fais pas de couverture.
Mais la une de Soros, c'est vous qui l'avez faite, donc c'est une erreur, c'est quoi ?
Ben en fait, moi je pense que c'est un procès d'intention, parce que très honnêtement, j'ai un peu halluciné du procès en...
Mais vous la regrettez du coup ?
Non, je pense qu'il fallait faire ce dossier, je pense que c'était vraiment une bonne chose sur le plan éditorial, de mettre le doigt sur cette situation, ce milliardaire philanthrope qui finance partout des projets qui sont des projets qui en gros encourager l'immigration, pour encourager la déstabilisation de certains États, etc. Moi, je considère qu'il y a un vrai sujet.
Et aussi le mélange entre ces fondations à but non lucratif et ces entreprises privées.
C'était exactement
aussi sur ça l'article.
Et le pouvoir invraisemblable qu'il a. Et donc, je considère que c'était le rôle d'un journal de le faire. Et...
Mais en même temps, vous savez très bien pourquoi ça va être perçu comme étant antisémite.
Honnêtement, je vous promets que j'ai pas anticipé. C'est exactement pareil que ce que je vous disais sur l'ayatollah tout à l'heure. J'ai pas anticipé une seconde une polémique sur le sujet. Et en plus, notamment l'ironie de l'histoire, c'est qu'en fait le dirigeant politique au monde le plus véhément contre George Soros, c'est Netanyahou. Donc je me suis pas dit une seconde qu'il y avait un sujet, si vous voulez, par rapport à ça. Je savais même pas qu'il était. Je crois d'ailleurs même pas qu'il soit juif, George Soros, en fait. Donc il y a eu ce truc là qui honnêtement a pas pris beaucoup d'ampleur parce que les gens qui nous accusaient ont compris qu'on était de bonne foi. Alors maintenant, qu'est-ce que je ferais ? En effet, il y a peut-être des mots un peu maladroits par rapport à ce procès que je retirerais si je la refaisais. Mais le dossier, je ferais exactement le même. La couche, je ferais exactement la même. Et des photos de Soros, il y en a pas des milliards. On a pris la seule qui était un peu potable.
Bon, que vous avez mise en scène dans la une, mais le Monde a eu aussi des problèmes sur la mise en scène des portraits sur ses couvertures. Ouais. Mais effectivement, vous l'avez dit, c'est effectivement un article qui comporte des informations, qui se réclame de l'enquête. Vous le dites d'ailleurs, je crois que quand vous avez pris la tête, vous avez dit que vous vouliez faire plus d'enquêtes et plus de... Mais je voulais juste, parce que ça m'a frappé, je me suis posé la question, je lis un extrait du deuxième papier de ce dossier. Et en réalité, plus encore que les informations, c'est le ton. Et là-dessus, est-ce que vous pouvez nous poser la question sur la manière dont vous avez de pratiquer le journalisme? Cet article commence par « C'est un homme qui souhaite l'installation d'au moins 1 million de migrants par an en Europe, la suppression des frontières, des condamnations pour crimes et délits plus légères pour les migrants que pour les autochtones, la disparition de l'identité occidentale ou encore des sanctions extrêmement sévères pour les pays qui refusent d'accueillir des clandestins. » Alors après, on lit tout le dossier. En réalité, des sanctions sévères pour les pays qui refusent d'accueillir des clandestins, c'est pas tout à fait vrai. Et tout ce qui est ensuite plus haut, tout ce que je viens de citer, ne sera pas étayé ensuite. Ni le chiffre d'au moins 1 million, ni les condamnations pour crimes et délits plus légères. Donc en réalité, on est sur un ton qui est très vindicatif, ça, là on peut le dire, mais qui en plus vend des informations qui seront pas tout à fait celles que vous aurez ensuite dans le reste du dossier. Ça justement, est-ce que c'est pas une des limites? Est-ce qu'on est vraiment dans du journalisme d'enquête et pas vraiment du journalisme d'opinion?
Disons qu'en fait, ce dossier était bien parce qu'il y avait vraiment pas mal d'infos et sur les phrases.
Mais en l'occurrence, pas celle-là.
Les phrases que vous venez de citer. Non, mais ça, c'est comment dire? C'est une atmosphère générale. C'est voilà ce qu'on reproche nous à George Soros. Et derrière, voilà ce que vous allez apprendre. On peut en discuter. Honnêtement, il y a un sujet. Je suis d'accord. Mais moi, je rougis pas de ce truc parce que vraiment, les gens qui l'ont acheté pour se faire une idée sur le personnage ont appris des choses. En effet, peut-être pas ça, mais il n'y avait pas rien du tout dedans.
Alors on a fait George Soros, on peut faire maintenant Bilal Hassani, ça c'est plus récent cette semaine, possible candidat français à l'Eurovision, un homosexuel d'origine marocaine. Ça a eu l'air cette semaine de vous scandaliser toujours plus dans la promotion des minorités. On lit dans votre article consacré à ce garçon qu'on écoute, qui peut-être va représenter la France puisqu'il est français.
Quelle est la question?
La question, c'est pourquoi est-ce que vous partez en guerre contre ce candidat potentiel à l'Eurovision, sachant
non,
que...
Non, c'est pas en guerre, c'est en fait, moi ce qui me choque, en l'occurrence c'est pas moi l'auteur de l'article, mais j'étais d'accord avec ce qui était exprimé par la journaliste qui a écrit ça. Ce qui me choque, si vous voulez, c'est la volonté de promotion de la part de l'Eurovision, c'est même pas Bilal Hassani le problème, c'est l'Eurovision est devenu, si vous voulez, un show idéologique en fait, c'est ça que je leur reproche.
Mais vous pourriez vouloir qu'on gagne l'Eurovision et comme gagne désormais avec Dana International ou avec Conchita Wurst,
on a arrêté
Marie Myriam, L'oiseau et l'enfant, c'était 1977, vous étiez même pas né. Il faut peut-être gagner avec, non?
Non, en fait c'est marrant parce que j'ai espéré qu'on gagne l'Eurovision quand j'étais petit, puis j'ai compris qu'on prenait des tôles tellement énormes que maintenant j'ai oublié ça. Non, au-delà de ça.
Imaginez qu'on gagne avec Bilal Hassani, ça sera bien pour la France et vous regretterez pas votre
article? Non, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que c'est un show idéologique et je considère que c'est pas bien. C'est-à-dire que, ou alors il faut l'assumer tel quel. C'est en gros.
Le pas bien, c'est quoi? Le politiquement correct?
Non, c'est pas. On peut parler du politiquement correct si vous voulez. Non, là vraiment, il y a une volonté.
De promouvoir
des minorités et de faire passer un message au grand public qui va se retrouver naïvement devant sa télévision.
Qu'on est mieux, on gagne plus quand on est transgenre et avec du rouge à lèvres et des moustaches.
Non, c'est pas ça le problème si vous voulez. C'est que ce qui était raconté dans l'article, et c'est ça qui était intéressant, c'est que le chef de la délégation française à l'Eurovision, qui manifestement a un pouvoir au moins consultatif, en tout cas plus grand que les gens qui vont voter sur Internet, de choisir leur représentant français, soutenait la candidature de Bilal Hassani. Moi je dis, il y a une volonté de pousser les minorités. Et en fait, derrière, il y a une question très, très intéressante, et je pense que c'est fondamental dans les débats d'aujourd'hui. Après, Bilal Hassani...
C'est juste que c'est aussi un garçon qui est suivi par, je crois, plusieurs millions de personnes sur des réseaux sociaux, qui a une popularité énorme, que ça vous plaise ou pas, et donc on peut aussi miser sur ce
même
genre
si
de
on peut aussi ne pas aimer cette musique, voilà. Ça aurait pu être un critère. C'est assez nul comme musique, mais
ça ne dérange même pas que ce soit nul, tout est nul à l'Eurovision quasiment. parce que le chef...
Vous regrettez Marie Myriam, je le sens.
Non, je regrette pas. Quand je vois Bilal Hassani, je regrette même Sébastien Tellier, c'est vous dire. Et donc tout ça pour vous dire que la question de fond derrière, et c'est ça qui est le plus important, et c'est ça dont on devrait parler, c'est comment on fait avec, parce que le message c'est il faut être plus tolérant avec les minorités, qu'elles soient d'origine
LGBT,
immigrée ou LGBT,
pour des questions de race, etc.
Ouais. Moi je considère l'inverse. Je pense qu'en fait elles ont le droit à l'indifférence et que toutes ces histoires au fond qu'est-ce que c'est de la discrimination positive, et dans discrimination positive je suis désolé, il y a discrimination et je ne comprends pas.
Il y a aussi
pas.
Positif.
Et ouais, mais il y a discrimination. Moi je retiens la discrimination. Par ailleurs on a déjà essayé, ça marche pas. Je ne comprends pas dans un pays comme le nôtre qui a la capacité, puisque pendant des siècles, il a fonctionné comme ça, d'assimiler les gens. On a renoncé à cette idée d'assimiler, enfin vous connaissez évidemment la thèse sur l'assimilation, et tout à coup on veut exalter les différences. Je pense que ça n'est pas sain, et moi c'est contre ça que je me bats.
Et les deux choses sont pas possibles, on peut pas à la fois rester avec une culture, une identité, quelque chose qui est vos racines, avec quelque chose qui appartient à la culture, et en même temps être français, c'est un modèle qui marche aussi.
Disons qu'en fait ça fait 30 ans qu'on est sur ce modèle d'exalter la différence, et ça marche pas. Moi c'est ça que je constate, moi je suis d'une génération qui voit que ça fonctionne pas, en tout cas que ça fonctionne moins bien qu'avant, et donc je suis pas pour ça justement. Et quand je vois cette histoire Bilal Hassani, en l'occurrence, encore une fois, c'est pas moi qui ai fait l'article, même si je suis d'accord avec ce qu'elle dit, je pense que c'est un sujet de combat idéologique.
Alors on vous sait proche de Marion Maréchal Le Pen, entre parenthèses, puisqu'elle a changé ce nom. Qu'est-ce qu'elle représente et quelle est sa place dans l'ensemble de la cartographie de la droite, je dirais, dure française, une droite identitaire, un peu incorrecte, pour prendre le nom de la revue qui cherche à rapprocher Républicains et Rassemblement National, dirigée notamment par Jacques Le Guillebon, qui est à la fois le directeur de l'Incorrect et l'animateur de l'ICEP, l'école des sciences politiques, que Marion Maréchal vient de lancer à Lyon. Et quel genre de femme c'est d'abord dans votre relation à elle?
Écoutez, j'espère que personne nous écoute, en tout cas qu'elle nous écoute pas. Mais c'est pas une. Enfin, je sais qu'elle suscite beaucoup de fantasmes chez les observateurs politiques et chez les politiques eux-mêmes. Moi, tous les politiques que je côtoie, comme ils savent que je la connais, me demandent comment elle est, etc. En fait, c'est pas une fille très impressionnante en vrai. C'est une fille de son âge, quoi, qui a des préoccupations de son âge et qui est pas du tout. Alors, je reconnais qu'elle est très bonne dans les médias, par exemple. Mais elle, quand vous la connaissez, quand vous la côtoyez en vrai, elle est pas du tout impressionnante. Comme moi, j'ai fréquenté par exemple Nicolas Sarkozy quand j'étais journaliste politique et que je suivais ses campagnes, etc. Nicolas Sarkozy, c'est vraiment un animal politique. Quand vous êtes dans la même pièce que lui, il se passe un truc. Et avec elle, je ressens pas du tout ça. Voilà, ça c'est le premier truc pour comment dire, dédramatiser un peu le personnage.
C'est une catholique pratiquante.
Je suis pas sûr qu'elle soit catholique. Oui, c'est sûr, mais à mon avis plus culturelle. Enfin, j'en ai pas parlé avec elle, mais à mon avis plus culturelle que. Oui, et puis plus enfin bon, ça à la limite ça peut arriver à tout le monde, mais elle est plus culturelle je pense que pratiquante, et en fait comment dire, pour répondre à qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle incarne, etc., je pense qu'elle incarne justement, c'est un peu sa force, en plus comme elle est pas là c'est plus facile parce qu'elle est pas obligée de s'exprimer tous les jours, mais elle incarne un peu plusieurs droites, donc il y a des gens de
c'est quoi cette droite hors les murs dont vous parlez tout le temps, parce qu'en réalité on sait bien, d'ailleurs on parlait tout à l'heure de Yves de Kerdrel qui avait pris clairement ses distances avec Marine Le Pen et qui ne se reconnaissait pas non plus dans les Républicains, je crois que vous l'avez aussi dit vous, et qui parle effectivement, vous avez les fameuses rencontres de Béziers animé par Robert Ménard, vous y avez été, vous êtes très présent. Valeur Actuelle incarnerait aussi cette fameuse droite hors les murs, mais c'est quoi cette droite hors les
vous
murs?
Vous dites elle plusieurs droites, quelles sont-elles ces plusieurs droites hors les murs?
Quelles sont les murs? En fait, je vais essayer pour la première fois de ma vie de donner une définition de ça, parce que je reconnais que moi non plus je comprends pas très bien. Quels sont les murs? En fait, les murs sont les murs partisans. C'est ça. C'est qu'en fait, quand on dit hors les murs, je sais pas ce que ça veut dire d'autre. Ça, à mon avis, ça ne relève, enfin, ça montre pas de critères idéologiques. C'est vraiment les murs des partis. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je considère que pourtant, enfin, je connais plein de politiques, etc. Comme j'ai fait ça pendant des années, j'en ai fréquenté beaucoup, mais qu'il se passe pas grand-chose sur le plan intellectuel dans les partis. Et moi, je pense qu'on a de la chance à Valeurs Actuelles, en tant que journal, d'être en dehors de ça. Donc, quand on dit hors les murs, c'est de pas être prisonnier des points de vue des partis politiques.
Mais vous parliez de plusieurs droites. Quelles sont-elles ces droites,
disons
au pluriel?
Dans toutes les droites aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, la droite au sens général du terme, elle est divisée en plein de chapelles ou plein de courants, etc. Donc, vous pouvez retrouver les libéraux centristes pro-européens
qui vont vers Macron
qui sont pour l'instant même bien chez Macron et qui à mon avis ne repartiront pas de sitôt,
des populistes, donc là c'est Wauquiez, c'est la droite populaire, etc.
Ouais, alors encore que il est un peu coincé dans sa stratégie parce que il a cette stratégie de faire une droite populiste et en même temps il a un électorat qui est droite traditionnelle et retraité, donc en fait il tient un discours pour convaincre des gens qui heurtent un peu ce qui lui reste, ouais, je pense que c'est un peu son équation impossible du moment.
Il y a des souverainistes.
Il y a des souverainistes. Il y a des purs libéraux, des gens qui considèrent que seule l'économie doit être le critère qui compte. Vous avez carrément des punks à chiens, quoi, qui sont un peu pas satellitaires.
Des punks à chiens, c'est-à-dire.
Ce que je veux dire, c'est pour le coup des partis super minoritaires. Vous avez aussi des cathos, pour dire quelque chose de plus sérieux. Ouais. Et en fait, Marine Maréchal Le Pen, elle parle un tout petit peu à tous ces gens-là. Voilà, je pense qu'elle a réussi à avoir un discours, etc.
Est-ce que Marine Le Pen n'a pas réussi, presque a failli réussir quand elle avait d'une part Florian Philippot à, disons, sa gauche, qui défendait des positions plutôt de gauche.
Frexit, anti-euro, etc.
Anti-euro, ouais. Et de l'autre côté, disons, un fonds de commerce lancé et qu'elle a entretenu, celui de son père, qui elle tenait la main de pas mal de gens de cette droite, finalement.
Voilà, mais ça s'est fait au prix d'une gauchisation de son discours économique qui a quand même fait une vraie frontière très hermétique avec la droite normale, entre guillemets, la droite traditionnelle. Donc c'est des gens qui, en fait, ont considéré tout à coup qu'elle allait potentiellement, si elle gagnait, vider leur PEL et leur compte en banque. Et y a une vraie crainte. Donc ça s'est fait au prix de cette rupture-là.
Si c'est pas le libéralisme, vous l'avez dit, le libéralisme est un point de clivage aujourd'hui pour cette droite, et peut-être même chez vous, dans vos convictions. Est-ce que finalement, c'était pas une alternative à cette droite libérale?
Qui Marine Le Pen? Bah écoutez, en tout cas, elle s'est
pour
pas imposée comme ça.
Ou pour certains de vos électorats?
Elle s'est, mais sans doute dans notre électorat, il y a des gens qui évidemment votent pour elle, mais elle s'est pas imposée comme ça en règle générale, de manière, elle s'est pas imposée majoritairement. Et pour répondre à votre question sur l'époque où elle avait Philippot et Marion Maréchal et que elle jouait sur les deux tableaux, ça s'est terminé à 20% au premier tour de la présidentielle. Donc ça veut dire qu'elle le tenait pas si bien que ça, ce double discours.
Mais vous sembliez dire tout à l'heure que Marion Maréchal Le Pen peut-être peut être une solution à ça. Vous sembliez dire que au fond, les deux grandes droites, comment dire, un peu la droite populaire et puis une droite qui serait beaucoup plus identitaire, etc., n'arrive pas à se parler, au fond elles sont séparées de manière définitive sans qu'il y ait une possibilité de rassemblement.
Je ne sais pas si c'est définitif, mais en tout cas ce que je constate, c'est que l'écart s'agrandit en ce moment, je pense, ouais. Et la question des gilets jaunes notamment l'a montré, c'est-à-dire qu'en fait vous avez 60% des Français qui soutiennent, donc plutôt des Français de la France d'en bas, quoi, qui soutiennent ce mouvement parce que c'est le côté le ras-le-bol sur les questions fiscales, mais aussi sur les questions démocratique, puis même au fond, en fait, sur la question de la perte de sens, tout simplement, et de qui on est, comment on est considéré par le pouvoir. Et vous avez les 40%, les autres, qui disent vivement que ça cesse, ça va être les soldes, on va pas pouvoir faire les boutiques, l'économie ne peut pas repartir, et mon business, comment je vais faire, et ça coûte à l'emploi, et ça creuse la dette, etc. Et Macron leur a filé 10 milliards, ils sont pas contents. Et en fait, fondamentalement, je pense vraiment, pour être allé sur les ronds-points et pour fréquenter le reste du temps beaucoup des gens de la France d'en haut, je pense qu'en fait, il y a, comment dire...
Incapacité de dialogue entre ces deux forces là.
Et voilà. Et donc sur le
vous
point,
me disiez aussi qu'une partie importante des lecteurs de Valeurs Actuelles avait voté Macron.
Bah, en tout cas, beaucoup plus que ce qu'on peut croire. C'est-à-dire que je vois bien la manière dont vous percevez Valeurs Actuelles, encore que vous l'avez lu, vous, d'habitude les accusateurs le lisent pas. Mais
On voit la complexité aussi, la multiplicité des droites et des formations qui vont lire éventuellement et s'y retrouver.
Et en fait, pour répondre à votre question, moi j'ai senti, en fait, le fait d'être à Valeurs Actuelles, c'est génial pour avoir un spot d'observation de la droite très intéressant. Parce que vous observez les réactions du lectorat, et on est un peu dirigé par notre lectorat quand même. On s'adapte un tout petit peu à ce qu'il pense, quoi. Et je m'attendais, moi je pensais, bêtement, que Macron serait le fils spirituel de Hollande et que ça changerait rien du tout. Et par rapport au quinquennat précédent, et force est de constater que je me suis trompé, que beaucoup de choses ont changé. Et j'ai vu une partie de notre lectorat, via le courrier des lecteurs, via les coups de fil qu'on reçoit, via aussi les ventes du journal, qui sont à bon baromètre, qu'en fait, les gens n'accrochaient pas avec le moment où on disait c'est Hollande, attention, au secours, Hollande revient. Et qu'il a troublé une partie du lectorat, je suis incapable de vous le quantifier, c'est-à-dire que contrairement j'ai pas fait de vulu, comme vous disiez tout à l'heure, Zoé, et je peux pas vous le quantifier, mais je sais qu'il y a eu un trouble. Et d'ailleurs, il s'est vérifié pour le coup dans les enquêtes d'opinion à droite, où on a vu que Macron parlait à la droite, notamment quand il faisait tous ses actes d'autorité, régalien, Jupiter, etc. Et je sais que ça, au sein de Valeurs Actuelles, ça a été aussi une réalité. En fait, on est assez représentatif de l'état de la droite.
Quels sont les jeunes intellos de droite que vous lisez? Qu'est-ce qu'il faut lire pour essayer de comprendre? Je sais pas, la revue Limite, des gens comme Jenny Bastier, des gens qui écrivent chez Closer, un peu de Figaro Vox. Qu'est-ce que vous aimez dans les nouveaux intellos de droite?
Alors, écoutez, moi, vous avez cité Eugénie Bastier, je la trouve super brillante. Je suis très heureux que dans notre génération, parce qu'elle est un peu plus jeune que moi, mais on a à peu près le même âge, il y ait quelqu'un comme ça. Elle est vraiment forte et intelligente, et elle travaille beaucoup. Je suis en train de lire Bellamy en ce moment, François-Xavier Bellamy, celui qui est pressenti pour être tête de liste pour la droite, pour les Républicains aux européennes, qui est très original et en même temps, c'est un conservateur intelligent, si vous un conservateur éclairé, c'est-à-dire que il arrive à donner, à mettre des mots sur le conservatisme qui font en sorte que c'est pas totalement vintage. Et c'est, son texte est beau, en tout cas, j'ai pas fini en fait le livre, mais de ce que j'ai lu pour l'instant, c'est beau et c'est très bien fait. Qui d'autre
Gaspard Koenig, dans une version plus libérale.
Moi, il me fait rire, j'aime bien, enfin, il me fait rire, je trouve qu'il est stimulant intellectuellement, je suis quasiment jamais d'accord avec lui, mais
Mathieu Laine, dans la même mouvance.
Mathieu Laine est très intéressant. En fait, si vous voulez,
c'est les libéraux, disons.
En fait, moi, je suis quand même plutôt un conservateur.
Gros libéraux.
Ouais, c'est les libéraux hardcore. Et moi, je suis plutôt un conservateur, donc en théorie, je suis pas client, mais je les aime bien parce qu'ils sont stimulants intellectuellement. Ils obligent à se remettre en question et voilà, j'avais lu un livre il y a quelques années parce que Gaspard Koenig en fait fait des bons romans aussi et il avait fait un roman qui s'appelait La nuit de la faillite.
Et puis bons articles dans Le Point.
Oui, dans Le Point, ses papiers sont super drôles.
Sur la mondialisation au fond et sa complexité.
Mais je recommande quand même, c'est un livre qui est sorti en 2012 je crois, mais ça s'appelait La nuit de la faillite et il racontait l'effondrement du système monétaire international entre New York et Paris en une nuit et c'était à mourir de rire. D'ailleurs, un des personnages centraux à l'époque, on était en 2012, c'était Emmanuel Macron.
Steve Bannon, ça vous parle ? C'est parfois étrange de lire une adoration qu'elle vienne de Marine Le Pen ou d'autres pour Steve Bannon, alors même que c'est quand même malgré tout celui qui a fait Trump. Donc comment est-ce qu'on peut être pro-français et pro-Bannon ? C'est compliqué pour moi.
Moi, j'ai pas d'adoration, d'admiration, etc. En règle générale, pour assez peu de gens. Non, il dit des choses intéressantes. On avait publié une interview de lui il y a quelques mois quand il était venu en France pour le meeting du Front National. Et objectivement, bon, j'étais content de le faire. C'est en effet l'homme qui a fait Trump. Donc c'est quelqu'un qui a eu une influence. À un moment donné, que vous dire, c'est pas non plus le théoricien mondial du populisme. En fait, d'autres ont écrit Chantal Mouffe, par exemple, sur le populisme de gauche, Chantal Delsol pour le populisme de droite.
De droite,
etc.
Ouais. Chantal Delsol, qui est un peu le lien entre Républicains et Marion Maréchal Le Pen, justement.
Ouais, je pense qu'elle accepterait pas la définition. Je pense qu'au contraire, elle se tient très à
en
distance.
En intellectuellement, elle fait le lien entre la Manif pour tous, disons, et puis la droite plus classique.
C'est une philosophe conservatrice qui est extrêmement influente, etc. Mais honnêtement, je crois qu'elle fait vraiment pas du tout de politique. Mais en tout cas, voilà, d'autres ont écrit avant lui. Maintenant, Bannon, il le fait à l'américaine, quoi. Donc, un peu bourrin, avec de la sauce ketchup sur la cravate, quoi.
Et puis, d'une certaine manière, Marion Maréchal, avec son LICEP, I2SEP, l'école de sciences politiques qu'elle lance à Lyon, c'est un peu ça aussi qu'elle veut faire. Enfin, repartir.
Je pense que ce qu'elle veut faire, c'est plus essayer de former. Enfin, moi, ce qu'elle m'avait expliqué quand elle a lancé cette école, c'est qu'elle avait vu, en faisant de la politique, qu'il lui avait manqué des jeunes cadres formés. Donc elle a fait une école pour former des jeunes cadres. Ce qui veut dire que c'est pas complètement impossible qu'elle ait un projet en tête à terme. Mais voilà, je pense que c'est ça. Elle a vu que les gens de droite faisaient des écoles où ils apprenaient rien, ou alors en tout cas n'étaient pas compétents, qu'en revanche la gauche sait former des cadres, elle le sait le faire depuis très longtemps. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a fait cette école. Ouais.
Allez, j'ai une phrase pour terminer d'Arnaud Montebourg, tout à fait une autre figure. Il dit, au fond, ce qui se passe en France, c'est un peu ce qui se passait avant en Italie. Il y avait Berlusconi, on a eu Sarkozy. Il y a eu Prodi, on a eu Hollande. Il y a eu Renzi, on a eu Macron. Et il y avait Salvini. Il y a Salvini, on va avoir Salvina, à savoir Marion Maréchal.
Je l'ai croisé dans un cocktail il y a 6 mois. Il m'a dit exactement la même phrase.
C'est la thèse de pas mal de politiques. C'est vraiment ça. Dire qu'il faut toujours regarder ce qui se passe en Italie pour savoir ce qui se passera en France.
Merci infiniment. Je vous crois le jeune d'avoir été notre invité ce soir. Lorsque j'ai préparé cette émission, j'ai interrogé quelqu'un qui vous connaît. Il m'a dit, fais attention, c'est un mec cool qui donne l'impression d'être un modéré, mais c'est un vrai facho. C'est vrai ou pas ?
Qui a dit cette horreur ? Non, c'est pas vrai.
En tout cas, vous étiez cool ce soir.
Mais en fait, je suis transparent. Je suis vraiment comme vous m'avez vu, voilà. Et je déteste la dissimulation. Je suis pas du tout comme ça. Donc vous m'avez vu tel que je suis.
Les références de cette émission, ce soir, articles, musique, livres, sont à retrouver sur la page de Soft Power sur le site France Culture. Dans un instant, Zoé Svez reçoit Patrick Charnitsky. Et à 20h10, le club de la presse numérique, on parle de la démocratie en ligne. Tout ça juste après James Blake, Tell Them, sur France Culture.
Kiss all alone, we breathe through the nose. the heady. Man, you know, I hate heady ass verses. I wrote the shit to you.
La liste des titres et la date de sortie de l'album de James Blake avait été révélée par erreur par Amazon France. Le nouvel album du Britannique était donc attendu ce vendredi. Il ne déçoit pas. En témoigne ce titre qu'on vient d'écouter brièvement, Where the Catch. James Blake featuring André 3000.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Patrick. Bonsoir. Charnitsky, vous avez, votre nom a fait buter Frédéric Martel, mais en même temps
un petit peu,
un très grand nom. Vous publiez Les Paradoxes de la coopération aux éditions Erol, sous-titré Comment rendre le collectif vraiment intelligent. On pourrait même dire comment éviter les bêtises que le collectif peut nous faire faire. Oui. Vous êtes docteur en psychologie sociale, vous êtes directeur associé au sein du cabinet Alternego. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions de mécanismes psychosociaux, de diversité. Vous avez publié toute une série d'ouvrages dont le dernier, l'inclusion de la posture à la pratique avec Pete Stone pour la FMD, c'était en 2018, c'est-à-dire déjà l'année dernière. Et là, vous publiez ce livre, vous tentez d'analyser ce que vous appelez l'engaiement pour le tout-co. Le tout-co, co-construit, co-agit, co-décidé. C'est ce fameux, ces techniques de management qui connaissent un énorme succès, notamment depuis les années 2010 à très grande échelle. Et vous dites que paradoxalement, la psychologie sociale n'a pas beaucoup travaillé sur les questions, a travaillé sur les questions d'influence sociale et de la manipulation, mais pas vraiment sur l'entreprise. Pourquoi vous avez voulu travailler sur ces formes de management basées sur la coopération?
Alors en fait, il y a trois raisons. La première, c'est que j'ai enseigné tous ces thèmes quand j'étais maître de conférence des universités, donc je connaissais ça très bien, mais dans une transmission très très académique. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, mon métier consiste à accompagner les entreprises sur la question de la diversité. Et on voit bien que plus la diversité augmente, plus mécaniquement, on risque d'avoir du mal à se comprendre et à travailler ensemble. Et puis la troisième, c'est effectivement cet engouement qui est arrivé d'un seul coup et est arrivé sous une forme vraiment presque autoritaire. Hein. On a décidé en fait du jour au lendemain qu'il fallait que on s'intéresse aux relations horizontales et pas uniquement à la verticalité dans les organisations.
Le top down, comme on dit, voilà, en anglais dans le management.
D'un seul coup, il faut que les gens qui vivent au même étage travaillent ensemble. Et en fait, on l'a décrété. Or, l'être humain n'est pas construit pour coopérer. On est beaucoup plus baigné depuis la petite enfance dans des logiques de compétition. Et donc, l'objet du livre, c'est pas du tout de m'inscrire en faux contre l'intelligence collective ou même entreprise libérée, mais c'est juste de poser un peu quelques pare-feux pour dire attention, la coopération, c'est pas intuitif. Il y a des pièges dans lesquels on peut tomber, et donc, quels sont ces pièges?
L'entreprise libérée, c'est un concept de management, d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est un mot, c'est un slogan, il y a une promesse qui est vendue, rien ne dit que l'entreprise soit véritablement libérée. Ça, vous l'expliquez d'ailleurs en introduction dans votre ouvrage, les entreprises de la Silicon Valley, Palo Alto, ont joué un rôle assez déterminant. Pourquoi est-ce que ce type de management a été, on va dire, théorisé, appliqué, imposé particulièrement là-bas?
Bah parce qu'on était dans une forme d'agilité indispensable, qu'on était sur des écosystèmes qui n'avaient d'autre choix que d'être de réagir à des changements qui étaient quasiment au moins le mois, quoi. Donc et puis les Américains ont peut-être cette aptitude un peu plus importante que nous à faire le pont entre le savoir académique et puis ce qui se passe en entreprise, qui est pas complètement surprenant compte tenu du fait que les entreprises participent à la vie académique, ce qui est pas du tout le cas en France. Alors on a d'autres avantages à ce que ce soit pas le cas en France, mais du coup on a du mal parfois à faire le pont entre les deux. Et moi c'est vrai qu'après 15 ans d'une carrière académique où on est plutôt conditionné à publier dans des supports qui sont lus par pas grand monde, j'ai vraiment eu très très tôt cette envie de vulgarisation et de faire le pont justement entre les deux.
Peut-être justement on peut essayer de définir ce que c'est que ce travail collectif de travail et la coopération, et peut-être donner quelques exemples. Vous essayez de mettre en exergue sept biais qui peuvent intervenir et qui peuvent véritablement être contre-productifs en réalité à tout point de vue. On va peut-être en parler d'au moins deux, mais ça consiste en quoi? Qu'est-ce que c'est l'idée simplement quand vous parlez des paradoxes de la coopération? On parle de quoi?
L'idée, c'est de se dire que mécaniquement, on pourrait imaginer que quand on travaille à quatre, le minimum, ça serait que de considérer que la performance qui est produite soit quatre fois supérieure à la performance individuelle. Bon, l'intelligence collective, c'est de produire plus que ça. C'est le fait qu'on ne soit pas sur une logique additive, mais sur une logique interactive, c'est-à-dire qu'il y ait une forme de d'enrichissement réciproque qui fasse qu'on devienne un peu plus intelligent grâce au regard de l'autre et que du coup, à quatre, on produise le travail qu'on aurait pu produire si 6 personnes avaient travaillé seules. Or, il se trouve que la psychologie sociale démontre depuis plus de 50 ans qu'il y a des situations dans lesquelles non seulement on ne produit pas un travail équivalent à la somme, mais on peut produire un travail inférieur, ouais, à la fois en termes de performance, c'est-à-dire que, par exemple, on parle dans le livre de la paresse sociale où effectivement, à trois, on peut produire un travail inférieur à ce que chacun aurait produit chacun de son côté. Et moi, j'ai été prof longtemps à l'ESCP Europe et je peux vous garantir que les travaux collectifs que de certains étudiants qui eux-mêmes sont brillants individuellement et pas du tout à la hauteur. Et puis, à la fois en termes de prise de décision. Or, il se trouve que quand on prend une décision à 5 ou à 10 dans un COMEX, on se rassure en imaginant que puisqu'on est d'accord, on peut pas se tromper. Sauf que si on a été fabriqué pareil, on raisonne pareil. Et qu'à 10, on peut créer des erreurs bien plus graves parce que justement, il n'y a pas le pare-feu de la contradiction.
Parmi les autres biais que vous listez, il y en a deux différents mais qui finalement se rejoignent. Il y a ce que vous appelez la normalisation ou comment le collectif peut créer une norme qui est inappropriée, qui est en fait pas la bonne, pas celle qui est bonne au niveau de la productivité, mais qui est en fait confortable pour tout le monde et qui le rejoint. Il y a la question, évidemment, la question du conformisme, c'est-à-dire comment un collectif va décider de ses propres lois et va finalement les imposer à quelques dissidents isolés qui ne font pas partie du collectif. De quoi on parle là?
En fait, la situation est très très simple. Hein. Vous imaginez un groupe où il y a 7 personnes qui débattent, il y a un tour de table, les 6 premières expriment une idée, et la 7e, elle entend les 6 premières parler, et puis elle commence à prendre conscience qu'elle a une opinion qui est dissonante par rapport aux 6 premiers. Donc elle a deux choix. Soit elle affirme son opinion, et elle se met en confrontation avec le groupe, ce qui veut dire que si c'est répété, ça produit une exclusion symbolique et à terme une exclusion qui peut être physique. Donc c'est potentiellement du mal-être. Et puis d'autre choix, c'est de se dire, bah moi j'ai quand même une injonction d'exister socialement dans cet écosystème, et donc je vais finir par dire comme eux. Soit consciemment, et je joue le jeu, soit encore pire, inconsciemment, en me disant que la quantité faisant loi, il est impossible que ces 6 personnes soient dans l'erreur alors qu'elles sont d'accord entre elles.
Oui, on n'est donc pas du tout dans un schéma qui est plus fin qu'une décision qui serait imposée par une personne à cette autre. Comment est-ce qu'on peut faire pour... Quelles sont les clés, par exemple, pour éviter ces situations-là qu'on a, je pense, tous connu. Là, on parle du monde de l'entreprise, mais c'est quelque chose qu'on a même connu, même dans la vie.
Bien sûr. Alors, c'est à deux niveaux. Il y a un travail à faire sur soi qui consiste à lutter contre cette injonction, qui consiste à penser qu'à plusieurs, on a forcément raison. Et donc, il faut faire l'effort de décorréler la rareté ou la fréquence d'une opinion de son contenu. Et ça demande un travail, en fait, parce que automatiquement,
exemple,
on va se dire,
alors, typiquement. Bah,
par exemple, vous êtes dans un jury d'assises, vous débattez d'un cas, et puis vous êtes 9 jurés populaires, il y en a 8 qui considèrent que vraiment le gars est coupable. À un moment donné, vous êtes vous persuadé qu'il l'est pas, mais sans avoir forcément de faits pour alimenter votre thèse, mais c'est comme ça que vous le sentez, vous allez pas vraiment oser dire que vous êtes pas d'accord, d'accord, parce qu'à un moment donné, l'acceptation par le groupe peut être beaucoup plus importante.
Autre biais très important et là aussi très très en qui fait écho à beaucoup de choses qui se passent évidemment dans l'entreprise mais aussi en dehors de l'entreprise, la polarisation collective. Et alors là vous dites c'est comment le collectif peut radicaliser les opinions individuelles. On voit très intuitivement à quoi ça correspond. Ça concrètement dans la vie de l'entreprise et notamment aussi dans la société, dans une société qu'on appelle informationnelle, qu'est-ce qui se passe au niveau du collectif et notamment dans le travail?
Alors ça, c'est quasiment le phénomène inverse, c'est-à-dire c'est un phénomène assez naturel et systémique par lequel, à partir du moment où des gens à peu près d'accord sur un thème, même s'il y a toujours un peu de divergence, se mettent à débattre, ils rentrent dans une logique de rentabilité de l'effort. C'est-à-dire qu'à un moment donné où j'y mets de mes opinions, pourquoi pas parfois intimes, j'y passe du temps, je mets de l'énergie, et puis je mets sur la table des arguments qu'éventuellement les autres n'ont pas, le phénomène qui peut se produire, c'est que finalement le groupe finit par avoir une opinion qui est plus extrême que la moyenne arithmétique des opinions individuelles. Ce qui pose encore une fois un problème d'exactitude et ce qui est particulièrement le cas dans des situations de conflit ou d'opposition entre deux clans qui ne seraient pas d'accord mais avec un désaccord qui serait mineur. Si on n'intervient pas immédiatement, chaque clan va se mettre à discuter de son côté et le produit de ces débats, c'est d'extrémiser et du coup vous créez un écart de plus en plus important qui fait qu'au bout d'un moment les deux parties sont impossibles à réconcilier.
Ça justement, vous en parlez, vous avez énormément d'exemples concrets, théoriques et parfois, évidemment, il y a une très belle littérature sur des études qui ont été menées dans ce livre qui est à la fois très précis et très didactique.
Merci.
Concrètement, comment est-ce que vous voyez, on parle ici beaucoup avec à Softpower, de la mutation, de la transformation numérique, de l'arrivée de grands groupes comme les GAFAM, mais surtout de leur culture, comment elle irrigue des entreprises dont le numérique n'est pas le cœur de métier, mais qui doivent engager une transformation numérique, et qui, dans cette volonté, essayent d'en adapter la culture. Comment est-ce que vous regardez, peut-être de manière générale, et pour conclure, la manière dont ces techniques de management sont ou pas adoptées en France, avec quelles précautions, ou pas d'ailleurs?
Alors elles sont relativement peu adaptées, parce qu'il y a...
Très bon lapsus.
Oui, absolument. Parce qu'il y a dans l'entre-soi et dans la capacité à être d'accord un confort qui dépasse parfois très très largement la volonté d'être exact. Et c'est tout le problème du plaisir qu'on peut avoir dans l'entre-soi. Et là, ça fait le lien aussi avec tous mes travaux sur la diversité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que cherche un groupe? Est-ce qu'il cherche à aller bien? Est-ce qu'il cherche à créer une ambiance dans laquelle on se reconnaît dans les autres et dans laquelle on n'est pas menacé? Ou est-ce que vraiment le groupe est capable de poursuivre un but d'exactitude, quitte à créer des zones de frottement? Donc c'est tout l'enjeu de ce livre, c'est de dire comment je crée les conditions empathiques, bienveillantes du débat et de la contradiction pour faire exister ces opinions qui sont divergentes. Et on n'est pas tellement habitué à ça en France parce qu'on est pour le dire vite, une culture du contrôle, et qu'on aime bien être dans un environnement qu'on contrôle et qu'on maîtrise.
Bon, et bien donc à tous les managers, mais aussi aux salariés, on peut le dire à tous, le livre de Patrick Chernitsky, Les paradoxes de la coopération, comment le collectif vraiment intelligent, c'est aux éditions Erol. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci pour cette invitation, très flatté.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h10 passé de 4 minutes, le club de la presse numérique. Cette semaine, le président de la République Emmanuel Macron lançait son grand débat national pour participer de solutions. Vous pouvez participer à des réunions ou les organiser à partir du kit disponible sur le site du grand débat ou en contribuant en ligne à partir de demain 21 janvier. Et ce soir, justement, dans le club de la presse numérique, on s'intéresse aux expressions démocratiques en ligne avec Emmanuel Paquet, journaliste à l'Express, et Eliott Lepers, fondateur de l'ONG Le Mouvement. Sont-elles efficaces? Comment cela fonctionne? Sur quels exemples peut-on s'appuyer? C'est le sujet de ce club de la presse avec, pour commencer, Eliott Lepers, une consultation en ligne. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un moyen d'expression démocratique?
Oui, il y a plusieurs approches, parce que ça peut être effectivement simplement avoir une consultation, donc faire émerger des idées pour produire une base intellectuelle sur laquelle on va pouvoir former des lois. Ça, c'est un peu le format de base. Et puis après, ça peut prendre plusieurs évolutions. Et là, effectivement, ce à quoi on assiste dans la suite de la crise des Gilets jaunes, c'est l'objectif étant de recréer un moment politique. Donc c'est beaucoup plus chargé émotionnellement que ça peut l'être, par exemple, dans les travaux des assemblées ou du Parlement pour essayer de recueillir un certain nombre d'avis. À la base, un avis d'experts, de personnes éclairées, hein, c'est des fameuses auditions qui sont fréquentes dans n'importe quel processus d'écriture de la loi à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et qui peuvent s'appuyer, on l'a vu avec la loi numérique, notamment en France, qui a été un bon exemple de consultation, qui peut s'appuyer sur un dispositif ouvert où n'importe quel citoyen, n'importe quelle citoyenne peut participer pour venir produire une intelligence qui soit collective.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors effectivement, on voit un mouvement qui n'est pas simplement né en France, hein, on voit un peu partout sur la planète des initiatives. Alors, il y a même un terme qui est né en fait dans la presse anglo-saxonne, on appelle ça maintenant du crowd law. Donc ça serait, on peut dire ça, de la loi faite par le peuple ou faite
c'est
par la foule.
C'est une partie de ce qu'on appelle aussi les civic tech, c'est-à-dire les technologies autour
voilà,
du civique.
Voilà, liées à la société civile, effectivement. Ouais. Et à ce propos, il y a eu même un sondage qui a été réalisé par le Pew Research Center en 2017 à l'échelle de 38 pays pour savoir quel était le meilleur mode de gouvernement aujourd'hui donc en Europe et dans d'autres pays. La question qui a été posée en France, et il se trouve que les Français considèrent que la démocratie représentative, donc telle qu'on la vit aujourd'hui, est le meilleur des systèmes à 81%, et la démocratie directe, donc celle dont on est en train de parler, hein, c'est 74% des Français qui seraient pour une démocratie directe. Arrive en troisième position une démocratie en fait liée à des experts, faite par des experts. Là, on est à 44%. Puis après 17% pour une démocratie avec un homme, un dirigeant fort, et donc 12%, et l'armée qui arrive en dernière position, donc un pays dirigé par l'armée, c'est 17% des Français qui le souhaiteraient. Juste à titre de comparaison, en Allemagne, par exemple, à 90%, les Allemands sont heureux de la démocratie représentative, mais 74% seraient aussi d'accord pour une démocratie directe, et c'est 71% en Italie. Donc on voit qu'il y a quand même une envie et un besoin de démocratie directe qui émerge un peu partout dans les pays européens, mais même en dehors, on en parlera tout à l'heure peut-être. C'est le cas notamment à Taïwan, qui est en train de faire une tentative et des expérimentations de ce point de vue-là.
Quels seraient les critères, Eliott de Peyrs, pour réussir une mobilisation en ligne ?
En fait, moi je pense que le principal enjeu, c'est de savoir à quel point, si l'objectif c'est effectivement de créer la loi, à quel point le pouvoir est prêt à entendre ce qui émerge de cette consultation. Et c'est aujourd'hui ce qui est le plus compliqué, parce que eh bien notre démocratie, elle n'est pas forcément faite pour laisser la place à une expression qui serait complètement démocratique. Est-ce qu'on est en mesure de traduire dans la loi tout ce qui ressort de cette consultation? Est-ce que d'ailleurs c'est souhaitable? Est-ce que le filtre du politique finalement est pas nécessaire de la représentation? C'est là-dessus que je joue la nuance, parce que on peut se dire que finalement, si des gens participent, si des gens contribuent, proposent des idées, que derrière il y a un filtre arbitraire qui est celui du politique et donc de l'arbitrage de savoir quelle direction on veut donner aux politiques publiques, eh bien ça peut être décourageant pour les gens qui ont participé. Et en même temps, voilà, c'est le jeu de la République.
Emmanuel Paquette.
Oui, comme le disait Eliott, il y a quand même plusieurs possibilités en démocratie directe, plus ou moins complexes. La première, c'est effectivement de peser sur l'écriture d'une loi qui n'est pas encore rédigée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a peu vu en France ou pas vu, mais on l'a vu dans d'autres pays. Mais il y a un autre processus, il y a deux autres processus. Il y en a un autre qui est simplement la loi existe et on va l'amender. Et à ce moment-là, les citoyens peuvent créer et peuvent écrire un amendement. C'est d'ailleurs la consultation publique du Conseil national du numérique. Il y avait dans les 9 recommandations, il y avait une des recommandations qui portait sur la rédaction d'amendements par les citoyens pour amender une loi qui est...
Ça a été fait par exemple pour la loi Le Maire sur la consultation sur la loi numérique justement en 2015, où on pouvait contribuer sur le site dédié à améliorer la loi.
C'est ça.
Qui était elle-même une loi numérique, donc c'était évidemment l'occasion.
Là on parle même de rédaction d'amendement. Hein.
D'amendement,
c'est-à-dire qu'on peut, avec un amendement, on peut même vider quasiment la substantifique moelle d'une loi. Donc ça peut aller un cran plus loin. Et puis le troisième élément qu'on voit pas encore du tout en France, mais par exemple les Suisses, puisqu'on en parle beaucoup de la Suisse et de la démocratie directe en Suisse, le permet, c'est simplement de défaire une loi existante. Et là, c'est les citoyens qui se mettent tous ensemble en disant cette loi-là ne nous convient plus. Et alors à ce moment-là, il faut établir un seuil à partir de combien de personnes on estime qu'on peut passer un référendum, une vote sur une loi ou modifier cette loi. Et là, d'un pays à l'autre, et en fonction de la population d'un pays à l'autre, il peut y avoir de grandes disparités.
Eliott de Peyrs, quelles sont les limites de ces mobilisations qui parfois ne sont pas plus représentatives que les lois normales, et par ailleurs avec des problèmes de démocratie, aussi des problèmes techniques qui peuvent surgir?
Non, mais effectivement, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, on se souvient peut-être de l'exemple du TAFTA au niveau européen, où il y avait eu une grosse mobilisation citoyenne, il y avait une pétition, donc une initiative citoyenne européenne, qui avait rassemblé le nombre de signatures, c'est-à-dire 1 million de signatures au niveau européen, qui avait été présentée et qui avait été rejetée parce que ça n'avait pas pour objet de saisir la Commission européenne d'un nouveau projet de loi, mais ça avait pour vocation d'empêcher l'arrivée de ce projet de loi qui était existant. Et donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Effectivement, c'est le cas en Suisse. En Suisse, on a cette possibilité d'empêcher, en tant que citoyen, l'émergence, l'arrivée d'une nouvelle loi. Et ça, c'est un des projets qui est porté aujourd'hui par les revendications sur les aménagements de notre démocratie. Donc la limite technique, elle est beaucoup là-dessus, de savoir quel pouvoir on donne à cette capacité. Il y a le nombre, évidemment, qui est très important, 1,4% actuellement en Suisse de la population pour les référendums les plus contraignants. Et puis derrière, il y a les personnes qui participent, en fait. Ça, c'est un gros enjeu. C'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt des personnes connectées, plutôt des personnes qui sont déjà au fait de ces sujets. Sur la loi numérique, qui est le dernier exemple en date en France, sur la numérique, c'est 50% de gens qui sont adhérents à des associations qui ont participé. C'est 70% de gens qui votent systématiquement aux élections.
Qui sont donc déjà mobilisés, voilà, politiquement.
Ouais. Et après, c'est 30 000 personnes effectivement qui se sont inscrites. C'est à peu près 18 000 personnes qui contribuent, donc qui proposent des amendements ou qui votent pour des projets. Et donc c'est un nombre finalement assez
réduit,
restreint.
Oui. Voilà. Cette semaine, le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi, lance son débat lui-même, en parallèle du grand débat, sur les nouvelles régulations numériques avec le Conseil national du numérique, la autre tentative d'une certaine manière. Est-ce que c'est pas seulement parfois ces consultations de la communication finalement?
C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on inverse ce que la démocratie directe doit être. C'est-à-dire qu'en réalité, la démocratie directe, c'est du bas vers le haut. C'est-à-dire l'initiative née de la population et des citoyens et remonte vers le politique. Là, quand c'est un homme politique qui s'en appare et en disant « je vais vous donner la parole », tout de suite, ça devient suspect en réalité. Parce que on l'a bien vu aujourd'hui, la démocratie directe, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission d'ailleurs, c'est pris en grande partie par des mouvements populistes qui disent « en gros, vous les citoyens, on vous écoute pas ». Personne ne vous écoute, ce sont les experts, ce sont les hommes politiques qui dirigent le monde, qui dirigent votre vie, et on ne vous écoute jamais. Et la démocratie directe, c'est d'inverser ce système-là, c'est de vous donner la parole et de faire émerger la parole des citoyens au lieu de celle d'experts et de sachants. Donc là, quand on a quelqu'un en France qui dit « bah moi, c'est moi, homme politique, je vais vous proposer de participer », on inverse totalement ce qu'est la démocratie directe et quasiment la vide de sa substance.
Éliott Lepeyre, c'est pas que de la communication, parfois, ces consultations?
Mais c'est évidemment le risque. Et je pense que dans une majorité de ces consultations, et notamment en France, effectivement, on reste dans la communication politique, on reste dans se donner un vernis moderne, un vernis de consultation, mais derrière qui ne remet pas en question l'exercice du pouvoir. Donc ça, c'est le gros enjeu. Mais par exemple, si vous prenez le budget participatif à Paris, eh bien, il y a effectivement une partie du budget de la ville de Paris qui est véritablement allouée en fonction du vote des Parisiens. Donc il y a 6% des Parisiens qui participent et derrière qui ont la possibilité d'arbitrer directement ces dépenses-là. Donc ça arrive. L'enjeu, c'est effectivement de voir quels sont les instruments démocratiques qui nous permettent de rendre ces consultations-là contraignantes et de voir comment est-ce que ça peut être constitutionnel, parce qu'on peut se souvenir de l'exemple de l'Islande avec un grand moment
démocratique. Oui, en 2011, où des citoyens sont élus pour écrire la nouvelle constitution du pays, lutter contre la crise de leur représentativité. Et cette constitution a été écrite, mais le processus est bloqué depuis, je crois, 2013.
Oui, parce qu'effectivement, les 27 personnes qui avaient été élues avaient été jugées non constitutionnelles dans leur représentativité. Et derrière, eh bien, le projet qui a été écrit...
Mais ce n'était pas d'ailleurs une consultation numérique pour le coup. Alors, c'est intéressant. Non. C'est-à-dire que c'est une forme de démocratie directe, mais qui n'était pas du tout digitale.
Oui, les deux ne sont pas forcément liés. Ah, d'ailleurs, oui. Pour prendre l'exemple de Kingersheim en Alsace, qui est une ville qui est dirigée par Joe Spiegel, qui effectivement, depuis 20 ans, met en place de la démocratie participative à l'échelon local. Là, ça se passe eh bien, très concrètement dans une maison des citoyens, avec une assemblée représentative de citoyens, mais avec l'enjeu de les former en amont. C'est-à-dire qu'on va former l'ensemble des citoyens d'un territoire pour qu'ils puissent être légitimes, mais pour qu'ils puissent être en capacité d'intervenir de manière éclairée sur un sujet.
Est-ce que le numérique, justement, n'est pas un moyen de contrer le principal argument des gens qui sont aussi de la démocratie directe, à savoir que finalement, la démocratie directe a un problème d'échelle quand on est sur des grands pays, sur des grosses décisions.
Oui, ça marche en Suisse.
Ça marche en Suisse, ça marchait dans la démocratie athénienne, ça ne peut pas marcher à l'échelle de pays tels que sur les nôtres. Est-ce que le numérique le permet vraiment, selon vous?
Aujourd'hui, il y a une expérimentation qui existe à Taïwan, qui est pour le coup un grand pays. Il y a une plateforme participative qui a été lancée qui s'appelle V-Taiwan. Elle a été lancée en 2016 et la première expérimentation, c'était sur la légalisation de l'alcool. Le gouvernement n'arrivait pas à s'entendre sur est-ce qu'il fallait légaliser ou pas l'alcool. Et donc, il y a une grande consultation publique sur cette plateforme.
Il y a pas d'alcool à Taïwan ?
En tout cas, elle a été interdite ou encadrée. En tout cas, la vente
encadrée, oui.
La vente d'alcool.
Et je me souviens avoir bu à Taïwan, donc ça existe l'alcool à Taïwan légalement.
Peut-être dans certains endroits, mais peut-être pas dans d'autres. Donc là, c'était une légalisation complète de la vente. Et il se trouve que le système avait donné, les citoyens avaient demandé à ce qu'il y ait une légalisation complète de la vente d'alcool, et ça n'a jamais été appliqué. Mais depuis le 1er janvier 2018, tout le système de V-Taiwan, qui notamment permettait de mettre en ligne des projets de loi ou des processus de modification de régulation, a été ouvert et les seuils ont été abaissés, notamment sur le nombre de signatures. Et depuis, il y a plus de 26 initiatives qui ont vu le jour, donc depuis le 1er janvier 2018, donc quasiment en un an. Et on voit à l'échelle de Taïwan les premiers pas d'une démocratie directe. Alors plutôt sur des processus de régulation, c'est-à-dire est-ce qu'il faut ou pas interdire les chauffeurs Uber, est-ce qu'il faut ou pas légaliser l'alcool dans tous les endroits. Donc pour l'instant, c'est des questions relativement simples, mais il y a d'autres questions qui sont en train de se poser, notamment notamment le mariage homosexuel, qui a été posté sur WeTaiwan comme une des grandes initiatives sur lesquelles doivent se battre les citoyens dans les mois qui viennent.
Et justement, c'est peut-être l'une des dernières réflexions qu'on peut avoir sur ces questions-là. Démocratie participative, si on n'est pas dans un processus constitutionnel, c'est-à-dire où les politiques sont tenues constitutionnellement de le faire, on peut bien s'imaginer que si Emmanuel Macron reprend des initiatives qui sont par exemple mentionnées par les maires lors de ce grand débat, puisqu'il n'est tenu à rien et qu'il va pouvoir faire son marché, on n'est plus vraiment dans la démocratie participative et il sera accusé de récupération. Donc finalement, on est un petit peu dans une dialectique impossible avec cette histoire de grand débat.
Ile de Perse.
C'est un peu tout le problème de ce grand débat où effectivement on avait l'émergence d'une forme de convivialité, discussion politique sur les ronds-points notamment, qui se retrouve un peu dans sa traduction institutionnelle. C'est un QCM avec 82 questions et 4 choix de réponse.
Mais quelles sont les autres solutions?
Moi, je pense qu'effectivement, les usages du numérique contraignent nos démocraties à s'ouvrir plus et à produire plus de formes de représentativité. Mais derrière, la solution, elle n'est pas forcément dans un formulaire en ligne. C'est plutôt dans des choses simples. L'exemple de l'Irlande, par exemple, qui, par la mobilisation populaire, a gagné un référendum sur la question de l'IVG, du droit à l'avortement. Et derrière, eh bien, notamment chez les plus jeunes, c'est 87% de participation à ce référendum.
Puis en Irlande, il y avait aussi en 2012 une convention constitutionnelle qui était issue du travail de réécriture de la Constitution par des citoyens qui a été pérennisé depuis 2016 par exemple, sans que ce soit numérique, mais c'était quand même de la démocratie disons directe à sa façon.
Ouais, l'enjeu c'est en fait de recréer de la vulnérabilité, c'est le principal.
Vulnérabilité.
La vulnérabilité pour le pouvoir, c'est ces interstices là qui nous permettent de
ça c'est un peu foucaldien comme formule, ou deleuzien.
On peut se réapproprier cette représentation finalement.
Emmanuel Paquette pour terminer.
Oui, alors juste il y a un risque aussi dans la démocratie directe, c'est simplement que des lobbies agissent en sous-main pour justement.
On l'a vu avec les gilets jaunes ou tout à coup.
Et le manif pour tous, le mariage pour tous est devenu la revendication numéro 1.
Alors des gilets jaunes, alors
quasiment absente des cahiers de doléances concrètement localement.
Bien. Eh bien, on en reste là pour ce soir. Merci infiniment à vous deux, Emmanuel Paquette de L'Express, Eliott Lepers, entrepreneur, fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG. Justement, vous faites de la démocratie d'une autre manière. En tout cas, vous essayez des civic tech à votre façon. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Dimanche prochain, nous nous intéresserons au mobilier national. Tout autre sujet. Dans un instant, Vincent Charpentier, Carbone 14. J'ai encore le temps de vous signaler que les matins de France Culture s'intéresseront demain à Donald Trump à l'occasion du 2e anniversaire de son mandat au pied du mur. Bon jeu de mots comme titre d'émission à ne pas rater donc demain matin. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne. Merci Zoé d'avoir été avec moi ce soir comme chaque dimanche et bonne fin de semaine.